This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
This is Veronica Whitney Robinson, the author of the Star Wars Galaxy novel, The Ruins of Dantooine, and you are listening to Star Wars on Direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com. Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue tout le monde à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Bonne Saint-Patrick à ceux qui ont des ancêtres irlandais.
Alors, je joue du violon.
Alors, mon nom est Lunatique, je suis en compagnie de GGM Will Mutez. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est le CGI à l'attaque de Hollywood ou les graphiques numériques ou le numérique au cinéma.
Ou comme j'aime appeler l'émission, Jar Jar versus Kermit.
OK. sujet secondaire, ça va être tout simplement une entrevue avec Jim, qui est Thierry Thiasson, je crois que c'est son nom, et qui est le réalisateur du film George le Film.
Ah, le fameux George le Film.
George le Film. Qui, on va parler plus en détail plus tard dans la chronique diverse, nouvelle diverse. Évidemment, chronique hyperespace, événements comme d'habitude. On va aussi vous révéler le scoop du DVD de la trilogie originale qu'on a reçu d'un
employé de la Fox.
Exactement. Et puis, comment nous rejoindre sur le site principal, il y a une webcam sur www.swendirect.com. Vous pouvez nous rejoindre par MSN en rajoutant l'usager swendirect@hotmail.com, swendirect@hotmail.com. Vous pouvez nous envoyer un email à studio@swendirect.com.
C'est cela.
Et non Hotmail.
Non.
Hotmail, c'est MSN.
Hotmail, bon. C'est MSN pour qu'on appelle les gens
exactement.
Qui veulent nous
parler. D'ailleurs, ceux qui ont des opinions sur le sujet, vous pouvez nous envoyer vos numéros de téléphone par MSN, justement, et on va vous appeler quand le moment sera venu. Donc, les commentaires par téléphone passent avant les commentaires par email et ceux du forum. Là-dessus, y a-t-il autre chose? Non. On parle de du film de Girl Next Door qu'on est, on a été voir la première de ce film-là.
Ben, l'avant-première.
Ouais, le film sort seulement le 9 avril. On l'a vu il y a deux semaines, la semaine dernière.
La semaine dernière. C'est tout un film.
Exactement. Pour ceux qui... en gros, l'histoire, comment on pourrait raconter ça, c'est que c'est un étudiant qui est le président de son école. Et puis... C'est
l'histoire typique là, du jeune étudiant qui veut devenir
populaire. Le génie de l'école qui va à une grande université, etc. Et puis, il y a une nouvelle voisine. Enfin, c'est la nièce
de sa voisine.
De sa voisine qui est partie en Afrique ou quelque chose.
En voyage. C'est pas grave où qu'elle est partie.
L'important, c'est qu'elle soit partie. Exactement. Et puis, c'est elle qui surveille la maison en attendant. Et puis, évidemment, le jeune homme tombe en amour avec. Et puis, éventuellement, il découvre qu'elle est une star du porno. Alors, toutes sortes d'aventures tournent autour de ça.
Et c'est un film très intéressant. C'est ça.
Éventuellement, évidemment, ils vont tomber en amour. Mais il y a une histoire parallèle à ça aussi, qui est que ce gars-là, le président de l'école, ramasse de l'argent pour... faire venir un génie du Cambodge ou quelque chose de la Thaïlande
du Cambodge
puis il a ramassé 25 000 $ et puis avec la situation qui arrive avec l'ancienne actrice porno avec son producteur, bon, il faut qu'il récupère 25 000 $ parce qu'il s'est fait voler par le producteur, donc il fait quelque chose de spécial pour récupérer l'argent. On le dira pas parce que c'est assez drôle là.
Mais
c'est un moment intéressant du film.
Allez voir le film, ça vaut vraiment la peine de le regarder.
On pourrait le comparer à American Pie un peu, sauf orienté vraiment avec beaucoup de clichés de l'industrie du porno, si on peut dire.
Un American Pie, American Beauty mélangé ensemble avec une petite touche de Ron Jeremy.
Oh, attention. Donc, vous pouvez voir un peu l'allure. Ça sort, en tout cas, au Québec, et c'est en Amérique du Nord, c'est le 9 avril.
Exactement.
Donc, on va peut-être avoir des billets pour ça, peut-être.
On va avoir des billets pour la première.
C'est bon. Fait que c'est de surveiller ce clan pour cela.
Pour un beau petit concours. Mmh.
C'est un très bon film. C'était plein, c'était très plaisant. On a ri beaucoup, enfin. Bon, sur ce, on va aller immédiatement à la première pause musicale. Qui est une chanson de Sloan, It Feel Good, If It Feel Good, Do It. So, on fait la pause, justement.
Hi, my name is Peter Mayhew. I play Chewbacca on Star Wars, and you're listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On est maintenant à l'heure, les chroniques hyperespace. Alors, comment ça fonctionne?
Ben, tout d'abord, on va commencer par saluer les gens qui sont dans le chat
bien
avec
sûr,
nous.
Bien sûr!
Alors, on voudrait dire bonjour à Botan Spy, Dusk, Dark Jedi, Dark Light, Fred, Jay, Left Elbow, Lovan, Memes, Padmé Amidala, Raven, Say What? What?
Say
Simon
what?
Kenobi, Snowtrooper, Somi et Silka qui sont avec nous aujourd'hui.
Alors... juste un petit peu, ça parle beaucoup de George le film dans le chat, donc ceux qui vont avoir des questions pour Jim tout à l'heure, allez dans My Room 1 et déposez vos questions à cet endroit-là. On va récupérer, on a beaucoup de questions déjà, si vous en laissez une que l'on n'a pas, on va la prendre et on va lui poser la question. Donc dans My Room 1, si quelqu'un veut laisser une question ou des questions pour l'entrevue plus tard.
Exactement. Alors, comment ça va fonctionner pour la petite chronique hyperespace? On va faire ça différemment maintenant. Attends. On va faire jouer l'introduction. Et puis tout de suite après, on va commencer à discuter de spoilers de l'épisode 3. Alors, aujourd'hui, la chronique devra être d'une durée de 15 minutes. On vous avertit à l'avance, comme ça vous pouvez fermer votre volume si vous ne voulez pas entendre de spoilers sur l'épisode 3 et les rouvrir 15 minutes après. Alors évidemment, on vous demande de ne pas discuter des spoilers dans le chat de Star Wars en direct. Vous pouvez le faire dans My Room 2 aujourd'hui. Dans My Room 2, je dis bien faites attention parce que My Room 1 est pour George le film.
Ouais.
Donc dans My Room 2, vous pouvez parler tant que vous voudrez de spoilers de l'épisode 3, mais on vous demande de faire très attention à ne rien divulguer pour les gens qui ne voudraient pas le savoir dans la salle de chat principale. On demande aussi de vous retenir d'en discuter sur les forums qui ne sont pas ouverts aux spoilers de l'épisode 3. Et si il vous prend une énorme envie de discuter des spoilers de l'épisode 3, vous pouvez toujours passer par les forums de Citlan.net. Donc, on commence cette chronique hyperespace à l'instant.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Bon, ben, il y a plusieurs choses qui sont à dire sur nos super amis de ILM. D'ailleurs, on a appris vendredi, très tard en fait, dans la soirée, qu'il y a eu une réunion le 11 mars dernier. Et ils ont maintenant 105 plans de compléter pour l'épisode 3.
Sur 2000?
Sur 2000.
Activez-vous les gars là.
Exactement, mais c'est quand même une bonne étape là, à avoir atteint.
Tu m'as calculé le plus vite.
C'est ça.
Police Academy.
C'est... Prenez votre temps là, mais faites ça vite. Donc, sur les plans qui montraient sur l'écran du théâtre de ILM, on voyait le ciel de Coruscant à travers la fenêtre du bureau de Bail Organa. Et George Lucas a même fait le commentaire « Ah, ça c'est une scène qui va être un plan de DVD ». Donc, le travail continue sur la séquence, mais son inclusion dans le film n'est pas exactement certaine, malheureusement. Lucas travaille très fort avec l'éditeur Roger Barton pour couper des scènes ou des plans qui ralentissent le courant et l'impact de l'épisode 3. George dit que c'est l'enfer, nous devons garder attentivement les scènes que nous avons besoin pour raconter l'histoire, ainsi que les scènes que nous allons avoir de besoin lors du tournage additionnel. Tournage additionnel d'ailleurs qui a été reporté, on y revient un petit peu plus tard. Le plan c'est de regarder une version plus finie du film la semaine prochaine. À partir de ce moment, la version qu'on va pouvoir éditer va être la première version officielle du film. Donc... c'est bien, on s'approche bien. Donc, le nombre total d'effets visuels atteint toujours les 2000. Les effets complétés sont 105. Le nombre d'effets visuels entre les mains de ILM sont de 1401 effets. Le nombre d'effets finaux nécessaires par semaine, 32. Donc, d'ici deux semaines, on devrait avoir passé le cap des 169, pas des 1000, mais des 169 effets spéciaux. Il reste encore 55 semaines avant la fin du travail. Il reste 1895 effets visuels à compléter. Et le 1er avril 2005 est l'échéance pour les effets visuels à compléter. Donc, énormément d'effets visuels. Le 28 février dernier, juste la journée qui précédait notre émission, on n'en avait pas parlé. Il y a eu une petite rencontre où ils ont montré à George les têtes de Christopher Lee, de Samuel L. Jackson, de Ewan McGregor, et ainsi que quelques autres personnages comme Anakin, Hayden Christensen, qui était sur les écrans, qui tournait, qui pivotait des têtes en 3D pour montrer les meilleurs effets spéciaux. Apparemment que c'est la tête de Christopher Lee, de Samuel L. Jackson, qui sont les plus réalistes. On sait qu'il y a des têtes qui vont rouler dans l'épisode 3. Il y a peut-être une raison pour laquelle ce sont ces deux têtes-là qui sont les plus réalistes.
Exactement.
La tête d'Anakin est plus ou moins encore la moins réaliste, mais elle n'est pas terminée. John Knoll indique qu'il manque le haut de la tête et puis qu'il y a une espèce d'effet de transparence qui donne à la peau pour le reflet de la lumière qui n'a pas été encore ajouté. ILM ont travaillé sur une scène entre Palpatine et Anakin qui se déroule dans le bureau du chancelier. George a demandé à ILM d'enlever les valeurs chaudes de la scène, de mettre la scène un peu plus froide, un peu plus bleue. George veut montrer un contraste entre cette scène et une autre scène entre Padmé, des sénateurs concernés, et Palpatine qui se déroule au coucher du soleil. Les scènes du Conseil Jedi avancent tranquillement. Les fenêtres montrent maintenant le ciel de Coruscant avec des nuages. Dans les animatiques, une scène où il y avait un orage à l'extérieur, George a demandé d'enlever les éclairs pour le plan final, car il ne veut pas distraire l'attention portée sur Anakin durant cette scène.
Oh, attention.
Il va falloir faire attention à Anakin.
Pas de détails dans le background, on veut que tout ce soit Anakin.
Exactement. Alors, Pablo Gil sera de retour, il va être membre du Conseil Jedi. Kit Fisto pourrait aussi en être membre. Even Piel sera de retour lui aussi, mais il apparaîtra sous forme holographique. De même que Ki Adimondi, qui était présent sur le décor du tournage, mais il va recevoir un traitement holographique. Il va y avoir de la statique lors de la retransmission du...
Il doit être ailleurs, justement. Ça répond à la scène où est-ce qu'il découvre quelque chose.
Exactement. J'aurais l'impression qu'il se trouverait même à être avec Even Piel sur une autre planète. Donc, la fin du petit Jedi. Et voilà. Samuel L. Jackson a parlé de l'épisode 3. L'épisode 3 est presque terminé, nous avons filmé l'été dernier. J'ai reçu un appel la semaine dernière de Lucas qui aurait besoin de moi pour 3 autres journées de tournage. Concernant le film, il dit que c'est le plus sombre de tous les Star Wars, il croit qu'il va être le plus sanglant aussi de les Star Wars et plus mature. Il espère qu'il va pouvoir répondre, que le film va pouvoir répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser sur l'univers de Star Wars. Ça, c'était au CBS Morning Show le week-end du 29 février. Donc, il est encore là. Évidemment, il faisait la promotion de son dernier film qui est Twisted avec Jude.
Non,
pas avec Jude, là, qui a enfin. Allez voir Twisted sur Internet. Tapez-le dans Google. Et voilà. Sur Sith.net, on a eu la chance de voir quelques fan art du général Grievous à partir des images disponibles jusqu'à maintenant. Et parlant des images du général Grievous, qu'est-ce que le fan club nous a révélé? Eh oui, la prochaine couverture d'Insider avec en pleine première page le général Grievous.
Moi, j'ai l'impression que c'est un accident parce que quand tu allais sur le site de Paizo, c'était encore la couverture du Star Wars Insider 74 qui était à la tête du Clone Trooper.
Exact.
Mais j'aurais pensé qu'il aurait mis justement le nouveau. Quand tu arrives sur le site, il n'est pas là. C'est un lien qui pointait sur le site.
Exact.
Mais qui était
plus creux. C'était
une image. Donc, je voulais savoir où aller la chercher.
Là. Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Mais.
Ça devrait pas être très long.
Ça devrait pas être très long.
C'est pour avril. C'est le numéro d'avril, je crois.
C'est le numéro de mars, avril. Mai-juin.
Mai-juin, ok.
Mai-juin. Donc, on a plusieurs détails de Pablo Hidalgo qui sont intéressants concernant l'épisode 3. Alors, tout d'abord, le documentaire web sur la création du général Grievous et les rencontres se seraient déroulées au mois de janvier-février 2003. Il n'y aura pas de Jedi Virk, l'espèce de Coleman Trevor, mais nous allons voir un Virk qui accompagne Palpatine durant la scène dans le théâtre. Intéressant.
C'est qu'il se pose à avoir une musique spéciale.
Exact.
Un peu composée, un peu. Une musique qui existe dans l'univers Star Wars et non une musique de John Williams d'ambiance, c'est ça. Mais c'est John Williams quand même, mais je parle dans le sens de Jedi Rock, Laptineck ou. C'est une chanson de ce genre-là.
D'accord. La voix du général Grievous dans la série animée Clone Wars n'est pas la même que celle du film. Il va y avoir plus de détails à venir là-dessus.
Il y a tellement peu de paroles, anyway.
Ben, effectivement.
C'est là. Comme il va probablement faire. C'est tout, là.
On verra bien. Pablo y a indiqué qu'il y avait des nouvelles planètes dans l'épisode 3 qui avaient été mentionnées dans une des nouvelles du Star Wars Insider, des HoloNet News. On pense donc que ce serait la planète Corellia, présentement. Parce que. Pardon. Il confirme que c'est pas Corellia. Okay. Nous, on pense que c'est Alderaan, parce qu'elle a été mentionnée dans le dernier HoloNet News.
Sauf quand tout le monde s'attendait à ce qu'on la voit, là. Cette planète-là, je veux dire.
Qui sait?
Ce n'est pas un secret, là.
Voilà.
Là.
Il y a une référence verbale au fameux 11-38. Padmé et Obi-Wan sont de bons amis dans l'épisode 3. Le général Grievous va être dans toutes les formes de publication avant de faire son apparition dans l'épisode 3. Ce qui prouve encore ce qu'il y aurait de l'allure avec le Star Wars Insiders numéro 75. Lors d'une entrevue en 1997, Lucas avait mentionné une des choses qui ne sera pas expliquée dans le film et comment Ben a pu garder son identité après sa mort. Cela se produit entre les épisodes 3 et 4. Je mentionne dans les films que c'est une discipline enseignée par Yoda. Mais nous n'allons pas voir comment il fait. Pablo confirme que tout ce qui est mentionné par Lucas est vrai, excepté les mots qu'on ne sera jamais au courant de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Il devrait y avoir environ 70 images Before the Helmet, puis les images Select vont débuter, ainsi qu'une nouvelle série d'images qui va faire son apparition. Mais présentement, Pablo ne peut rien nous donner comme réponse.
On est rendu à combien Before the Helmet? On doit être une quinzaine?
Un petit peu plus même. Je pense qu'il y en a une ou deux semaines depuis que le fameux Before the Helmet, la série, mm-hmm, a commencé. Ce que Pablo aime le plus du général Grievous, c'est son dialogue, donc il va parler. Les fans de Star Wars vont comprendre pourquoi les actions et les choix de Qui-Gon dans La Menace Fantôme jouent un rôle très important dans les événements de la saga. J'aurais quand même laissé Jar Jar sur Naboo. Grievous contribue au moment aventurier du film ainsi qu'au moment sombre. Il n'y aura pas de Nogri dans le film. Le général Grievous mesure 1,90 m, et c'est l'univers étendu qui va expliquer pourquoi le général est à la tête de l'armée des séparatistes.
Hunted. Boba Fett Hunted.
Dans Boba Fett Hunted, et voilà. On va regarder rapidement. Alors, je vais continuer avec d'autres détails de Pablo tout de suite, des détails qui sont sortis cette semaine. Alors, est-ce que la reine Amidala aura la chance de quitter un endroit sécuritaire pour mettre sa vie en péril dans l'épisode 3? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des Itoriens dans le film? Il n'y a pas eu de filmé jusqu'à présent. Est-ce que Mace Windu meurt seul ou est-ce que d'autres meurent au même endroit et en même temps? Il n'est pas seul, mais c'est celui qui vivra le plus longtemps. Donc, il n'ira probablement pas seul confronter notre cher ami Palpatine dans ses bureaux.
Bon, je savais qu'Anakin serait là.
Mais j'ai l'impression qu'Anakin serait déjà là. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres Jedi, là, peut-être deux ou trois autres Jedi en plus de
il arrive avec Mace.
De Mace Windu. C'est ça.
Mace.
Donc, combien de pilotes Jedi y a-t-il dans la bataille spatiale et est-ce qu'ils vont discuter comme les pilotes rebelles l'avaient fait durant la bataille de Yavin? Il va y avoir seulement deux pilotes et ils parlent avec d'autres pilotes.
Bon, j'ai Anakin et Obi-Wan qui parlent avec des clones
pilotes. J'ai l'impression que c'est ça, encore Anakin et Obi-Wan. Pourquoi aimais-tu la façon que Duncan Young avait de lire le général Grievous, car c'était lui qui lisait sur le plateau de tournage? Parce qu'il sonnait comme un vilain des années 30 qui attachait une pauvre demoiselle en détresse à une voie ferrée ou de jeunes cadets de l'espace à des fusées explosives. Aucune chance.
Mais c'est lui qui fait la voix de Bender, non? C'est pas lui?
C'est pas impossible, mais je n'ai pas vérifié.
Parce que il y avait une news, je sais pas si tu vas en parler, que c'était la voix dans Clone Wars, c'était la voix du. De l'homme qui fait la voix de Bender dans Futurama.
D'accord. Ça va être intéressant. Vous regardez ça, j'en ai probablement dans mes nouvelles.
OK.
Alors, aucune chance de donner des nouvelles parties du dialogue du film. Il nous a donné un mot, c'est Magnetize. Mais il faut aller avec la voix de Werner Kempler, qui aurait fait la voix d'un singe dans Planet of the Apes, dans les premières versions. Pablo, ne t'ont-ils pas demandé de faire un caméo dans le film? Il répond non. Est-ce qu'il va y avoir d'un nouveau concours avec peut-être un voyage pour le ranch? Il dit qu'il n'y a rien qui est présentement en cours de discussion. L'emploi du temps tourne présentement autour du tournage additionnel. Mais s'ils font un concours, ça risque d'être un concours gagner un voyage au Royaume-Uni pour le mois d'avril. JediCon peut-être? Qui sait? Shakti va être de retour parmi les membres du conseil. Il n'y aura pas de Botan dans l'épisode 3. Mark Hamill ferait la voix du général Grievous dans l'épisode 3 et les chances sont très très minces. Quelle est la grandeur du rôle de Rebecca Jackson? C'est un très petit rôle dans une seule scène. Est-ce que les explications sur les fantômes Jedi dans l'épisode 3 tout ce qu'on connaît déjà là-dessus, est-ce qu'il va y avoir un problème de continuité avec les liens entre les Tales et l'attaque des clones? Il y aura définitivement une migraine de continuité qui nous dit, mais si les fans ont pu passer par-dessus Jaster Muriel, Anakin qui construit ses 3PO et 1000 ans de République, ils devraient passer par-dessus celle-là aussi éventuellement. J'aime bien l'humour de notre ami Pablo. Est-ce que The Phantom Menace et Attack of the Clones seront diffusés ou rediffusés au cinéma en 2005, quelque peu avant l'épisode 3? Il nous redit qu'il n'y a aucun plan pour ça, ce qui est quand même assez étonnant.
Il n'y a pas de plan que lui est au courant, probablement, parce que c'est une place pour faire de l'argent. Là.
Exactement. Dire,
Lord of the Rings l'a fait. Il y en a d'autres films aussi qui ont fait Alien. Ben, ils ont sorti le film parce que c'était un director's cut.
C'est ça, mais c'est vraiment Lord of the Rings, les premiers à faire ça. Puis ils ont quand même eu du grand succès. Donc peut-être qu'on va
mettre la version DVD dans le fond.
Qui sait, on verra.
Avec les scènes rajoutées.
Est-ce qu'on... Apparemment qu'il va y avoir d'autres bandes dessinées originales ou d'autres dessins animés sur le service Hyperspace. On lui a demandé des détails. Il dit qu'il est encore trop tôt pour donner quelques détails que ce soit. Bon. Le 5 mars dernier, le site Yahoo a fait parle d'une description de l'acteur Jimmy Smith. Et dans cette entrevue, il dit que son rôle dans le troisième et dernier film de la prélogie de George Lucas devrait paraître le 25 mai 2005. Ça va être élargi avec une possible liaison romantique avec Padmé Amidala, jouée par Natalie Portman. Organa est brièvement mentionné dans la première trilogie comme étant le père adoptif de la princesse Leia. Voilà. On a eu encore, effectivement, plusieurs images Before the Helmet. L'une d'entre elles était Obi-Wan qui répond à un appel sur son comlink alors qu'il rencontre la sénatrice Amidala dans son appartement. J'ai l'impression que ça serait peut-être même son appartement sur Naboo.
Pour revenir à ta nouvelle juste avant, que tu disais bon, que c'était le père adoptif, blablabla, il n'y avait pas une nouvelle par rapport à peut-être une histoire d'amour entre Padmé et Bail.
C'est ça que je viens de lire.
je faisais autre chose.
Écoutez-moi quand je parle. On a aussi reçu une confirmation croustillante, c'est le cas de la dire, de Force.net. Les images d'Anakin brûlé qu'on a dû retirer du site. Le visage, le cou, le corps et les jambes ont été assemblés à partir de 3 images réelles des tests de maquillage pour l'épisode 3. Le bras robotique vient de l'épisode 2, mais avec une couleur différente. Intéressant. Quelques détails sur la mort de Padmé. Nous avions mentionné que les blessures de Padmé infligées par un Anakin enragé obligent le vaisseau qui la transporte à son bord avec Bail, Obi-Wan et Yoda à atterrir pour sauver les jumeaux. Le vaisseau atterrit sur une nouvelle planète où les jumeaux naissent et Padmé succombe à ses blessures. En fait, Padmé meurt dans les bras d'un Obi-Wan triste, comme Shmi Skywalker dans les bras de son fils dans Attack of the Clone. Une scène très intense, le parallèle avec l'épisode 2 est intéressant. Anakin qui berce sa mère mourante et qui promet de ne plus laisser se reproduire une chose pareille, tout comme Obi-Wan berce la femme d'Anakin. On a vu Kyle Rowling qui jouait le rôle du Count Dooku au niveau des chorégraphies dans l'épisode 2, qui tenait un pistolet de soldat de clone et avec le texte « A crack shot ». Et on voit que le pistolet, c'est pas du petit pistolet, c'est du gros calibre. Donc, c'est tout pour la chronique hyperespace. On espère que vous avez... bien été spoilé encore une fois et que vous n'aurez pas de problème. La dernière chose qu'on va mentionner avant la fin de la chronique, c'est évidemment que les scènes de tournage qu'on s'attendait à avoir plus tard cette année au printemps ont été reportées au mois d'août. Ça a été confirmé par Rick McCollum le 11 mars dernier.
C'est bon, je vais marquer spoiler off et voilà. Puis on va kicker Bespin parce que il n'a pas écouté qu'est-ce qu'on avait dit, même si on l'avait averti d'avance, donc je crois que c'est comme ça.
Désolé, Bespin.
Oups.
D'accord. Je m'en occupe.
Ben, je le suis pourtant. Je suis administrateur. Surprenamment. Alors, chronique hyperespace, mais pas hyperespace, mais miscellaneous news. Alors, on fait la petite transition. Et de retour à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Là, quand on vous mentionne de ne pas mentionner de spoilers, on vous le dit souvent, on a averti Bessin plusieurs fois, donc on l'a kické. Faut respecter ça, parce que ceux qui restent dans la salle principale, ils sont ici pour pas rien savoir. On avertit tout le monde, donc respectez ce fait.
Exactement.
Alors, maintenant, on va parler de Battlefront. On commence. Deux autres vidéos de Battlefront ont été vues sur Internet. On y met cette fois en vedette deux planètes, Yavin 4 et Naboo. Je dois dire que ces deux vidéos en valent la peine. Allez le voir. Il faut avoir Flash pour pouvoir les voir. Ils ont comme intégré les vidéos dans une fenêtre Flash, donc ça permet de pas trop le sauvegarder dans le fond.
Exact.
Bonne sécurité. Maintenant, Star Wars Shop, bon, le nouveau site commercial StarWarsShop.com, qui était supposé ouvrir le mercredi 10 mars, vient d'annoncer qu'il met temporairement fin à ses activités le temps de régler les problèmes de sécurité rencontrés lors de la première journée d'ouverture. Apparemment, des informations tirées de transactions menées en ligne par les consommateurs auraient été transmises à d'autres tiers. Cette situation problématique force donc le nouveau site à mettre temporairement le holà sur ses activités commerciales pour la durée de l'investigation menée par leur firme spécialisée Analyst International. Par ailleurs, par mesure de sécurité, StarWarsShop.com se voit dans l'obligation d'annuler les transactions pour des achats effectués en ligne dans la journée du 10 mars avec remboursement intégral des achats aux consommateurs. Dans toute mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Le site offre à tous les consommateurs qui ont effectué un achat sur leur site le 10 mars une badge de Jedi, ben le Revenge of the Jedi. C'est ça, j'imagine? Tout à fait gratuitement. Ainsi qu'un certificat cadeau de $50 US échangeable contre la marchandise lors de leurs prochains achats en ligne sur le site. Belle récompense.
Ben en fait, tu vois, moi j'ai passé la nuit debout. J'étais vraiment comme hypé comme à la première de l'épisode 1. J'avais passé comme toute la nuit debout. Puis là, j'attendais, je faisais des refreshs pour voir quand est-ce que le magasin était pour ouvrir. Parce que je voulais être dans les 500 premiers. Là, juste au moins pour pouvoir dire j'étais dans les 500 premiers. Mm-hmm. J'ai réussi à être dans ces 500 premiers là. J'ai même réussi à.
I'm the.
Je vais essayer d'arranger ça. J'ai même réussi à avoir des petits autocollants et c'était très intéressant. Mais j'avais fait toute ma commande et tout. Puis là, je reviens peut-être 2 heures plus tard. Boum. Comme par hasard. Il n'y a plus rien, c'est fermé. Okay. J'ai tout de suite appelé Steve Sensweet, évidemment. Il m'a dit qu'il n'y avait pas aucun problème avec les des commandes et tout, puis qu'il n'y avait aucune information de haute importance qui avait été était sortie.
Le monde n'avait pas que les numéros de carte de crédit.
C'est ça, effectivement. Mais là, à ce moment-là, il n'y a pas eu de numéro de carte de crédit qui a été passé. C'était vraiment juste, ça serait juste des nombres, des adresses ou des choses comme ça. Bon, effectivement, c'est un petit peu embêtant pour eux, mais le magasin StarWarsShop.com, j'ai eu le temps de faire le tour, c'était très intéressant, des produits vraiment uniques en leur genre. C'est sûr que c'est pas donné, c'est pas gratuit. Moi, vous voyez, j'avais un set d'autocollants, pis c'est tout. C'était 10$. Il y a des frais de shipping, des frais de
port
et manutention qui sont assez élevés parce qu'ils font affaire avec FedEx. Soit pour le Canada, sont à 15$ frais fixes internationaux. Frais fixes pour les Canadiens, c'est 15$.
Okay.
Donc, pour un achat de 10$, je paye 15$ de frais. De frais supplémentaires. Donc, j'avais 25$. Là, je reçois un certificat cadeau de 50$. Donc, je suis gagnant
au
bout du compte. Je vais quand même reprendre mes autocollants, mais je sais pas, je vais regarder pour voir d'autres marchandises. Il y avait des très belles montres qui étaient là. Il y avait beaucoup de marchandises de l'attaque des clones, des marchandises exclusives, par contre. Puis, quelques marchandises aussi de portfolio, par exemple, de Ralph McQuarrie, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, très intéressant et à surveiller.
Alors,
je casse tout. <moi. rire>
Bon, quelques rumeurs à Hasbro. Le site galactichunter.com, grâce aux visions prophétiques de son oracle, c'est la personne qui fait des prédictions ou leur contact, dans le fond, vient de prédire la sortie de quelques pièces supplémentaires pour l'année 2004 par Hasbro. Tout d'abord, on parle d'une cinquième figurine argentée conçue par Hasbro pour l'année 2004 après Darth Vader, R2-D2, Boba Fett et le Clone Trooper. Voici que Hasbro nous concocterait un Sand Trooper argenté d'ici la fin de l'année 2004. Aucune image pour l'instant, mais soyez assuré que cette cliente viendra à la charge si une image fait surface sur Internet. Ensuite, on nous a annoncé également la sortie de deux Collector Carrying Case, dont celui de Darth Vader Carrying Case et C-3PO Carrying Case, deux études de rangement qui incluraient apparemment chacun une figurine et qui nous rappelleraient le bon vieux temps de l'époque vintage. Je ne sais pas si tu te rappelles l'espèce de boîte qui fait storer tes figurines à l'intérieur. Ensuite, de plus, Galactic Hunter annonce la sortie de deux Cantina Alien 3-Pack. Il est encore trop tôt pour savoir si un de ces deux ensembles comprendra des figurines tant attendues. Kitikikikak, oh boy, Wurrer et Dr. Evazan, qui faisaient toutes trois parties de l'assortiment annulé des Cantina 7, mais sait-on jamais. Finalement, toujours selon l'oracle, Hasbro offrirait aussi trois packs, tel un Imperial Force 3-Pack, un Rebel Force 3-Pack, en plus d'une édition spéciale de Disney, un duo Yoda et Mickey Mouse. Come on, un duo Yoda et Mickey Mouse.
Écoute, les deux ont des oreilles de forme intéressantes.
Et ce n'est pas tout. On parle aussi de figurines 12 pouces, de Play School, 2-Pack et d'autres items. Alors, je vous invite à aller lire le texte détaillé des rumeurs directement sur Galactic Hunter. On continue, le Fan Choice de Hasbro. C'est le Imperial Scanning Crew Technician qui a remporté le dernier sondage de Hasbro. Il a gagné avec 28,21%. Le plus proche rival était le Han Solo in Stormtrooper Disguise. Ce sondage a été mené par le site Star Wars de Hasbro. Rappelons que ce sondage n'est pas vraiment considéré à proprement parler comme un Fan Choice, selon la séance de questions-réponses rapportée par Hasbro sur leur site dernièrement, mais plutôt une chance pour les fans de décider quelle figurine il aimerait voir réémise sous emballage Original Trilogy. Donc, c'est juste une ressortie, dans le fond. Maintenant, le roman Jedi Trials. Je vais vous raconter la prémisse de cette histoire. Les séparatistes ont envahi Praecitlin, un noyau de communication crucial de la République. Pour le reprendre, les Jedi ont envoyé Anakin Skywalker sous la commande du Jedi corélien Nija Alcyon. Les forces clones joignent ceux des Freedom Sons, un groupe de combattants indépendants qui s'allie aux Jedi. Dans le milieu du champ de bataille, Anakin est entouré de non-conformité aux règles. Ce sera une épreuve d'émerger de cette victoire cruciale en tant que chevalier Jedi sans avoir succombé à la tentation de briser les édits stricts du code Jedi. Oh, c'est mal écrit ça. Star Wars Jedi Trial est un roman de la guerre des clones écrit par David Sherman et Dan Craig. Il sera disponible en hardcover au mois d'octobre. Et Sue Rostoni de Lucasbook a confirmé que Jedi Trials raconte la mission qui va promouvoir Anakin au titre de chevalier Jedi. Le retour des romans français au Québec. Enfin. Vous savez sans doute que les romans de Fleuve Noir sont interdits de vente au Québec, mais d'après les lecteurs du forum de cette clan, les livres Star Wars de Fleuve Noir seraient sur le point de refaire le retour au Québec. En fait, il y a déjà quelques livres qui ont commencé à être des titres qui ont commencé à être relivrés au Québec. Il s'agit de chercher un petit peu. plus de détails prochainement quand nous aurons une information officielle. Bon, les BD du mois de juin 2004, je vais juste les nommer. Star Wars Empire 22 va être disponible le 2 juin. Star Wars Republic 66 le 23 juin. Star Wars Jedi Yoda le 30 juin. Et le Star Wars Tales numéro 20 sera disponible le 30 juin.
Qu'est-ce qui est arrivé à 17, 18, 19?
C'est probablement mai, avril.
Avril, mai, juin.
Exactement. De plus, le trade paperback de Star Wars Infinities Return of the Jedi sera disponible le 28 juillet. Ça, c'est pas juin, mais juillet. Maintenant, George, le film, c'était théoriquement le 10 mars que le film devait être disponible. Cependant, Thierry Thiasson, alias Jim, le réalisateur, nous a indiqué par mail que George va tout d'abord être garder l'exclusivité pour les chaînes de télévision et les festivals de films, avant d'être disponible sur DVD probablement en fin d'année, et possiblement l'année prochaine sur Internet seulement. Donc les fans devront l'acheter ou attendre.
Eh bien,
c'est dommage pour un fan de film. C'est, oui, un peu comme, George, George Lucas and Love.
George Lucas and Love,
c'est le même principe. Bon, maintenant, l'extra sur le DVD de la trilogie originale, on est rendu à...
Oui, effectivement, on a réussi à entendre de délicieux détails sur ce qui accompagnerait la trilogie originale en DVD. Alors, effectivement, on va probablement voir un petit documentaire de l'épisode 3, un peu comme on avait eu avec la version VHS qui est sortie juste avant l'épisode 2, pardon, l'attaque des clones. Donc, on va fort probablement avoir un petit documentaire making of avec le DVD. Et en plus de ça, on va aussi avoir quelque chose qui sera pas plate à regarder, ça va être intéressant au niveau même du combat et des choses comme ça. Donc, ça nous porte à croire qu'on pourrait voir le vidéo marketing qui avait été présenté au El Presidio à San Francisco en novembre dernier.
Le Back in Black vidéo.
Exactement. Et justement, ce même vidéo était en discussion lors de discussions qui entouraient la trilogie originale en DVD. Donc, c'est fort probable que ça soit ce même vidéo-là qui soit présent sur...
Ou remodifié, peut-être qu'ils vont avoir rajouter les scènes avec les effets spéciaux à l'intérieur, peut-être, on ne sait pas.
Qui sait. Donc...
C'est ça en gros.
J'ai très hâte qu'on voit ça. C'est officiel. Il va y avoir des extraits de l'épisode 3 sur le DVD de la trilogie originale.
Et juste pour vérifier rapidement,
merveilleux,
la news est maintenant sur siteclan.net, donc vous pouvez aller la lire plus en détail.
Exactement.
Alors, on est rendu à la pause musicale. On a fini la partie nouvelle de Star Wars en direct. Maintenant, on va aller au sujet principal après la pause. Vous allez écouter Filter, le groupe Filter avec sa chanson Take Picture. On revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Wake up. Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars en Direct.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On est maintenant le sujet principal, le CGI à l'attaque d'Hollywood. Par quelle approche qu'on va prendre le sujet?
Moi, en fait, j'ai mon idée très simple. C'est, au départ, quand on regarde l'histoire du cinéma hollywoodien, du cinéma hollywoodien, et puis qu'on regarde... les films comme King Kong, qui ont été faits avec le stop animation, avec la pâte à modeler, la glace dans le temps. Puis quand on regarde surtout Jim Henson, qui est arrivé avec ses Muppets, qui est arrivé en 63 dans le Jimmy Dean Show avec Rove the Dog, qu'on revoyait après dans ses Muppet Show, il n'y a personne qui a sauté au coup de Jim Henson, qui a sauté au coup des animateurs d'effets spéciaux, puis qui ont dit... La pâte à modeler va remplacer les acteurs,
Mais ça, c'est sûr, parce que ça ressemble pas à des humains, là.
Les Muppets vont remplacer les acteurs. Ouais, mais il y a eu quand même des films, des Muppets qui ont été faits.
Ouais.
C'est sûr que ça prend des gens pour les diriger, ces personnes-là, mais c'est pas des acteurs. Ça reste... C'est à se poser des questions, là.
Là, c'est plus le côté que ça ressemble à la réalité qu'on utilise.
Effectivement. Mais moi, tu sais, quand on regarde après ça des films comme, évidemment, Final Fantasy, de Spirit Within.
Oui, ça c'est rendu, c'est très proche de la,
ça,
de la réalité.
Ça c'est proche de la réalité à un point assez, assez horrible, parce que quand tu regardes le docteur Dr. Sid, à un moment...
Dr. Sid.
C'est ça son nom, me semble?
J'ai aucune idée. J'ai vu une fois le film. Okay.
Le docteur qui s'occupe en fait de la fille... c'est lui, il y a un moment dans le film où tu le vois, il est tellement réaliste, t'as l'impression que c'est un vrai acteur.
Okay.
Puis après ça, on fait comme la division vers, on fait la dérivation vers Jar Jar Binks dans Star Wars épisode 1, puis on fait la dérivation vers le reste des personnages, on fait la dérivation vers le reste des personnages dans les films de Star Wars ou dans d'autres films de science-fiction. C'est quand même assez assez effrayant qu'est-ce qu'on arrive à faire maintenant avec le computer graphic imagery. Mais ça dérange pas que on est encore loin de dire on va faire tout un film en CG à l'ordinateur, puis on n'aura plus jamais besoin des acteurs. Parce que t'as quand même besoin de personnes pour donner une voix à ces caractères-là. Là,
oui,
à
sauf que maintenant, le CGI, la technologie, supposons pour faire un humain qui ressemble beaucoup, c'est quand même encore dispendieux à faire parce que c'est beaucoup de temps. Donc, ça doit se rapprocher peut-être de... si tu payes le nombre d'employés qui travaillent dessus, ça doit revenir peut-être proche d'un acteur, là, du prix d'un acteur. Mais éventuellement, ça va être de plus en plus facile à faire. Puis les acteurs, eux autres, qui chargent des millions de dollars par film, quand on peut les remplacer, est-ce que éventuellement, c'est avec la technologie qui va avoir, mettons dans 15 ans, là, je suis sûr dans 15 ans, là, on sera même pas capable de faire la différence
entre
CGI ou réel.
On va être pas loin de l'intelligence artificielle, niveau visuel en tout cas.
C'est ça, on va pouvoir avoir des acteurs virtuels. Imagine des les mêmes modèles qui reviennent dans plusieurs films. Tu sais, mettons John Smith, mais tu sais, John Smith 05, là. Puis ça devient un acteur qui fait plusieurs films parce que c'est le même modèle qu'ils reprennent.
Effectivement.
On voit dans le futur un peu, là, mais c'est parce que moi je trouve qu'il y en a trop carrément de digital, même dans... si tu regardes la prélogie, il pleut des effets spéciaux, c'est tellement ridicule. C'est peut-être un fait aussi, pourquoi que les films Star Wars sont si longs à faire? C'est parce que il y a tellement de post-production à faire que c'est ridiculement long. S'il y aurait juste quelques effets spéciaux, mettons, juste la moitié, mettons 1000, au lieu de 2000. Il serait probablement capable de le faire en 2 ans au lieu de le faire en 3 ans.
Mm-hmm.
Puis que ça resterait quand même de très bonne qualité. Alors, regarde les séries télé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils font encore beaucoup, ils mettent les effets spéciaux à l'essentiel, puis le reste c'est des décors parce que ça serait trop long à faire. Une série télé, il faut qu'il y ait beaucoup d'épisodes. Ils n'ont pas vraiment le temps de s'attendre trop à mettre une tonne d'effets spéciaux. T'sais, c'est pour ça que je dis que la trilogie, il y a beaucoup trop d'effets spéciaux. Oui, c'est sûr que tu n'as peut-être pas le choix parce que si tu veux vraiment donner la vision que George a dans sa tête, blablabla, ben là, tu n'as pas le choix parce que tu es limité. Là. Tu n'engageras pas 5000 figurants pour faire une bataille de clones. Là.
Mm-hmm.
On n'est pas dans le temps de Benneux que tu n'avais pas le choix. Là.
Non, effectivement.
Fait que je considère ça. Il y a aussi, bon, avec beaucoup d'effets spéciaux, les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas nécessairement aussi bons parce qu'il faut qu'ils travaillent avec des fantômes.
Okay.
Fait que la vraie qualité d'un acteur ne ressort pas nécessairement aussi bien quand c'est un film à effets spéciaux avec juste des écrans bleus comparé à un film où est-ce que tu as un décor puis tu interagis avec d'autres personnes. J'essaie de voir Ewan McGregor quand il est sur Camino. C'est le seul acteur qui est là. Puis il faut qu'il interagisse avec des écrans bleus, etc. Probablement que son niveau de acting est beaucoup moins fort que dans d'autres films. Je regarde n'importe quel autre film qu'il a fait. Je sais pas, moi, Moulin Rouge... comment il s'appelle, celui avec la drogue, là...
Trainspotting,
etc. Certain qu'il est meilleur là-dedans que dans Attack of the Clones. Oui, OK, il y a le script qui joue là-dedans aussi, là, mais quand même, c'est beaucoup plus difficile de...
Ben, moi, en fait, ce que je vais... La carte que je vais sortir à ce moment-là par rapport à ça, c'est que quand on regarde ce que George Lucas a fait pour Jar Jar Binks dans l'épisode 1, épisode 2, puis même épisode 3, je suis sûr, on le voit quelques secondes seulement, là, mais quand on pense... à d'autres personnages qu'on va voir dans l'épisode 3, il y a ce qu'on appelle le stand-in. Mm-hmm. C'est qu'il y a quelqu'un qui prend la place du caractère, du personnage en CG.
Pour l'aider.
Pour aider les acteurs.
Donner les répliques, quoi.
Ils font les répliques à 2-3 reprises, puis après ça, hop, on remplace l'acteur.
Mm-hmm.
Si tu prends Andy Serkis pour Le Seigneur des Anneaux,
pour Gollum.
Qui a fait Gollum de cette façon-là, et voilà.
Moi, j'avoue que c'est certain que de ce côté-là, oui. Pour les décors, habituellement, les décors sont là. Tu sais, il y a quand même, si c'est à l'intérieur d'un vaisseau, tu vas avoir un décor puis des bancs pour s'asseoir. Là. Ça, on n'est pas rendu de ce côté-là. Faut aussi dire que il y a encore beaucoup de modèles qui sont faits, là. Quand même, là, si tu regardes, mettons, l'aréna de Geonosis, c'était pas tout digital, là. T'avais des modèles, des miniatures, si on peut dire. Il y a beaucoup, beaucoup de miniatures encore. C'est peut-être digital, mais c'est que au lieu de construire un gros objet, ils construisent ce petit, et puis ils l'agrandissent, puis ils le collent à l'écran bleu. Donc, c'est un moyen de faire des décors à grand déploiement, mais avoir un grand visuel, mais le voir vraiment petit.
Ce qui avait été fait justement pour épisode 1, qu'on pouvait vraiment bien voir la transition entre l'ordinateur et puis le réel, c'est le fameux Bongo,
mm-hmm.
Gungan, qu'ils ont fait une maquette en temps réel pour placer les acteurs et tout. Puis on le voit très bien que c'est une maquette mécanique qui manque de tomber là, dans la chute. Mm-hmm. C'est intéressant visuellement à le voir là, mm-hmm. tout de suite en partant. Quand on regarde aussi... un autre rapport comme ça m'est fait avec un acteur. Ahmed Best s'est fait maquiller la main à quelques reprises et le pied aussi pour l'épisode 1. Quand Jar Jar échappe la clé à molette dans mm-hmm. les engins d'Anakin, mm-hmm. la main qu'on voit qu'il essaie d'aller la récupérer, c'est une vraie main, là, c'est mm-hmm. pas une main faite à l'ordinateur.
Mm-hmm.
Dans le combat final de la menace fantôme, Jar Jar Binks s'accroche le pied dans le demi-corps d'un robot,
mm-hmm.
d'un OM-9. Puis, il donne des coups de pied pour essayer de s'en débarrasser, puis ça tire. Quand ils font le gros plan sur le pied, c'est un vrai robot avec le pied d'Ahmed Best à ce moment-là.
Ok, maquillé, ouais. Ok. Je savais pas ça. Bon, il y a de plus en plus de CGI dans les films. Je veux dire, il s'agit de bien doser. C'est certain qu'un film de science-fiction qui est futuriste, qui est dans l'espace, tu as peut-être plus tendance à l'utiliser plus. Parce que, je veux dire, tu peux pas... à moins d'être avec des maquettes, là, mais c'est pas évident de faire des combats spatiaux, etc., sans CGI. Je compare Lord of the Rings. Je trouve que c'est bien utilisé, même s'il y a certaines choses qui paraissent quand même, là... comment ça s'appelle, les Legolas qui monte après le Oliphant, c'est comme trop, c'est trop évident que c'est du CGI, mais en général, c'est bien utilisé quand même. Je veux dire, il y a beaucoup de vrais chevaux, t'as beaucoup de, c'est oui, les grandes batailles avec 10 000 personnes, c'est certain que c'est CGI, mais quand même, c'est plus discret, je dirais, un peu, le CGI dans Lord of the Rings, comparativement à épisode 2, que là, c'est je veux dire, tout est CGI, là, les décors et CGI, etc., etc. Cependant, on le voit que dans Attack of the Clones, je dirais, les scènes que c'est, où est-ce que t'as Yoda en CGI, ils ont gardé sombre, parce que, ils voulaient, ben, sauf peut-être dans la chambre de Palpatine, là, où est-ce qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de gros plans sur Yoda, puis ils ont fait même branler les oreilles pour que ça ressemble à la marionnette dans la trilogie classique. Mais le combat Yoda Dooku, étant donné que t'avais Yoda complètement digital et puis t'avais même le visage de Dooku qui était digital, il avait mis ça sombre parce que peut-être que ça cachait des défauts, faut croire.
Ben quand on voyait IMAX, effectivement on pouvait voir là, c'est Mike Rowling, je crois, là, que
Rowling. OK.
Je vais essayer de retrouver ma nouvelle. J'ai son nom parce qu'il a refait une photo récemment. C'est Kyle Rowling, pardon.
Okay.
Kyle Rowling qui faisait la chorégraphie des combats avec Hayden Christensen. Avec quand même, ils avaient quand même maquillé l'acteur avec un visage de Christopher Lee.
Ouais, c'est ça.
Puis quand ils ont remis, moi je trouve que c'est quand même bien réussi là, comme effet spéciaux. Mm-hmm. Mais on voit quand même, quand on voit le pan de la balance entre épisode 1 et épisode 2, il y a déjà un grand avancement là. Quand tu fais la différence entre les effets mm-hmm. spéciaux entre les deux films,
ouais,
là,
c'est sûr.
C'est assez.
L'épisode 3, j'espère qu'ils vont en mettre moins pour que ça se rapproche de la trilogie classique. Si tu mets trop de CGI. Je veux dire, il y a tellement une grosse différence entre la trilogie classique et la prélogie qu'il faut absolument réduire. Et puis en plus, déjà le fait que l'épisode 3, je pense, va être plus concentré sur une histoire que des effets spéciaux. En tout cas, j'espère. C'est sûr qu'il va en avoir des tonnes et des tonnes encore d'effets spéciaux, mais j'espère que ça va être moins fort là-dessus, pour essayer de rapprocher un peu les deux trilogies.
Avec le de ramener les circonstances théâtrales,
ouais, c'est
de,
ça.
De l'acte, de
du acting,
de faire vraiment
du jeu d'acteur.
Du jeu d'acteur.
C'est le mot qu'on cherche.
Comme notre cher ami l'amiral Ozel.
OK. Quand il fait sa promo.
Quand il fait sa promo.
Quand est-ce qu'on peut considérer que un film a trop de CGI? Hein?
C'est dur à répondre parce que non, c'est notre cher ami Somi dans le chat qui disait la scène après le massacre des Tolkien est magnifique.
Mm-hmm.
En fait, je pense qu'il veut dire la scène après le massacre des Tosken est magnifique.
Ok.
Donc je le reprenais. Ce que effectivement, quand est-ce qu'un film a trop d'effets spéciaux? Bon. Liam Neeson a beaucoup critiqué sur le fait que le fait de jouer devant des écrans bleus, mm-hmm. des écrans verts. Ewan McGregor a aussi commencé à critiquer un peu là-dessus. Moi, je dis que quand tu fais ton jeu d'acteur, si on prend la pièce qu'il ne faut pas nommer de Shakespeare,
mm-hmm.
et puis que le personnage prend le crâne de son meilleur ami dans ses mains, puis qu'il commence à lui parler. C'est un peu l'équivalent de faire du jeu d'acteur avec l'écran bleu, en fin de compte. Là. C'est qu'il faut que tu te sers vraiment de ton imagination puis que tu le vois, le personnage, devant toi. Quand est-ce qu'un film a vraiment trop de CGI, puis trop d'effets spéciaux, puis ça devient fatigant. Je suis mal placé pour répondre à cette question-là, parce que moi, plus il y en a, plus je veux. Je veux dire, par exemple, le film Final Fantasy de Spirit Within.
Mais ça, c'était pas un film à effets spéciaux, c'était un film animation. Donc, je veux dire, tout au complet était CGI, un peu comme Monster Inc. aussi, puis ces genres-là, c'est un genre... C'est ça qu'on voit là, maintenant, des films qui deviennent complètement CGI. C'est à ça peut-être qu'il faut avoir peur pour le futur, pour les acteurs, les artisans qui font des décors, etc. Eux autres, ils n'auront plus de job parce que plus besoin de faire de décors. Tu fous un écran bleu, puis...
Oui, puis non, en fait. C'est comme on a pu voir dans le troisième documentaire, si je me trompe pas, de StarWars.com, ils ont encore besoin de personnes pour faire des jets de fumée.
Ouais, présentement, oui. Mais je parle dans les années qui s'en viennent,
je pense pas qu'on va vraiment pouvoir se débarrasser de ces personnes-là.
Les acteurs vont pouvoir, tu sais, les voix, avant de synthétiser une voix parfaitement, ça va être quelque chose, mais ça va être encore des acteurs qui vont doubler, là, dans le fond, là. Mais éventuellement, on peut facilement croire, je regarde juste Monster Inc., c'était caricatural, mais quand même, les personnages étaient... C'était le poil sur la bestiole bleue, là, l'espèce de gros monstre. Là, je l'ai pas vu le film, là, mais ouais. J'avais juste vu des extraits, puis c'est comme tellement détaillé. Là.
Ben, si on prend dans le même contexte, Dexter Jaxter, dans l'épisode 2, quand on a vu.
Ça, c'est une place que je trouve ça paraît que c'est du CGI. Quand Obi-Wan arrive pour le serrer, c'est comme trop évident. Là. Ça, c'est une erreur. Je trouve
qu'il est vraiment bien fait. Quand tu vois dans les extras du DVD, nous autres, on l'avait vu à Indianapolis, on avait vu justement la collade entre Dexter et Obi-Wan. J'ai trouvé qu'il avait vraiment bien réussi.
Mais moi, je trouve que c'est une des choses qui est comme... C'est trop de CGI, là. C'est un des exemples... bon, ok, la bataille de la guerre des clones qui commence à la fin du film, je pense pas qu'on aurait pu vraiment la faire autrement, là. C'était tellement... Tout ce qui est grand déploiement, on n'a pas le choix, à moins d'engager 5000 figurants.
5000 extras. Déjà, pour le Seigneur des Anneaux, il y avait au-dessus de 500 extras qui faisaient les orques.
C'est ça.
C'était l'enfer. Ça doit être l'enfer sur le plateau.
C'est pour ça. Quand t'as des plans aériens, etc., tu peux pas faire ça avec la façon traditionnelle. Tu peux pas louer un avion, puis tu dis aux figurants sur le champ de bataille, « Allez, battez-vous, nous autres, on passe en avion pour on filme. »
C'est ça.
Ça coûte bien trop cher, tandis que tu peux faire ça numériquement maintenant.
Tu peux le faire numériquement, puis même Weta, justement, ont développé le software, un petit programme qui permet à chaque combattant
De générer sa propre bataille.
De faire des actions différentes des autres. Là. Mm-hmm. Parce que si vous regardez bien attentivement la bataille de l'épisode 1 avec les Gungan puis les robots, en particulier quand les robots sont désactivés, là, puis vous regardez en arrière ce qui se passe.
Tout est pareil.
C'est du copier-coller. Là. Il y a beaucoup de copier-coller dans cette scène-là.
Mais il s'est donné comme raison, c'est des robots.
Ouais.
Puis ils sont tous synchronisés.
Mais c'est les Gungan, en fait, là, que tu remarques, qui sont plus... Il y en a un qui se met les deux bras dans
un exemple de trop de CGI, justement, la bataille de sur Naboo avec les Gungan puis les robots. Excuse, là, mais c'est vert fluo. Le gazon, c'est vraiment trop, là. J'ai l'impression que c'est... Par exemple, c'est ILM qui a dit, regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est ça que j'ai l'impression, moi, pour la bataille. La même chose pour Yoda. Regardez qu'est-ce que ILM est capable de faire. J'ai l'impression qu'ils servent un peu de ça et qu'ils veulent faire leur show-off, là, leur... comment tu dis ça en français?
Dans le fond, Star Wars, c'est un gros vidéo de marketing.
Ben, c'est ça.
C'est une grosse promotion.
Montrez ce qu'on est capable de faire et engagez-nous pour vos autres films.
Exact.
T'sais, c'est ça que je trouve qui est déplorable un peu. Je suis certain qu'on pourrait augmenter, avoir une meilleure histoire si on mettait moins de temps ces effets visuels. Oui, tu gardes une bataille ou certains, mettons 50% d'effets spéciaux au lieu de 90% du film en effets spéciaux. T'sais. Juste diminuer une moitié. C'est certain que maintenant, il n'y a aucun film qui n'a pas. Qui n'a pas d'effets spéciaux, à part un drame vraiment là, qui se passe en ville. Puis c'est des acteurs. C'est un film traditionnel là, qui n'aura pas d'effets spéciaux. T'sais. En gros, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Tant que... Bon, le CGI est utile tant que la vision du créateur est transposé au film. Cependant, je dis, si vous voulez faire un film avec beaucoup de CGI, arrangez-vous pour que ce soit bien fait. Parce que si c'est pas bien fait, ça va être comme évident tout de suite. Mais alors, regarde, comme je disais tantôt, tu regardais plus le chat que m'écouter, mais les Golas qui grimpent sur le Oliphant,
ouais,
à la fin, c'est comme oublie ça, là, tu le vois tout de suite.
Ben ça paraissait effectivement. Mais Weta en tant que telle, une compagnie quand même encore très jeune, mm-hmm, au niveau du de la composition d'images graphiques mm-hmm par ordinateur. ILM nous ont prouvé avec la bataille sur Genesis, mm-hmm, que c'est rendu grave au point où est-ce qu'ils pourraient effectivement remplacer des acteurs, mm-hmm, par un caractère complètement composé par ordinateur. Cependant, je crois pas que ça va se faire. Mm-hmm. Encore une fois, comme Andy Serkis le dit dans une entrevue récemment, les expressions faciales, les émotions qui sont transmises par un acteur, ça va être dur d'arriver là. Par contre,
éventuellement, moi je dis pas
semaine. Non, c'est ça, on dit pas demain. Si on regarde de toute façon déjà l'étape qu'il y a eu entre l'épisode 1 et l'épisode 2 pour ILM, mm-hmm, épisode 2 et épisode 3, j'espère qu'on peut s'attendre à au moins 50%, sinon la même chose ou plus.
En frais de réalisme.
Là, on est rendu à une place où si on veut remplacer le Stade olympique de Montréal dans un film par
un modèle,
un château, c'est faisable en claquant des doigts en disant lapin. Mm-hmm. Ça prend
les structures fixes, c'est facile à faire.
Puis, ça paraît très bien. Bon, c'est sûr que ça coupe dans les charpentiers et tout ça, mais quand on parle de scènes rapprochées sur un décor, ça dérange pas qu'ils vont avoir besoin quand même de ces charpentiers-là.
Mm-hmm, les modélistes.
On va reprendre l'épisode 1. Moses pas, il a fallu qu'il en fasse une partie. Veux pas. La maison d'Anakin, il a fallu qu'elle soit construite. C'est pas le genre de choses que je m'attends à voir réalisées devant un écran bleu en CG du jour au lendemain. Là.
Mm-hmm.
Il va falloir... Les charpentiers, les électriciens vont rester. Les gars d'effets spéciaux physiques vont rester.
Mm-hmm. Mais tu trouves pas aussi que... un autre exemple. Un humain... un acteur humain qui travaille sur un écran bleu, c'est beaucoup plus difficile à intégrer probablement que un personnage digital sur un fond déjà digital. Dans le fond.
Oui, tout à fait. Mais si on regarde, plus ça va, puis plus je me demande s'il commence pas à avoir, dans le fond, la même aisance à le faire. C'est que quand ils prennent les fameux écrans bleus et tout ça, c'est une couleur. Quand on prend un logiciel comme Photoshop, mettons sur une image fixe, là, puis qu'on remplace une image de fond, admettons, autour d'une photo, mm-hmm, de quelqu'un, si on prend la même couleur partout autour de cette personne-là, le découpage se fait
parfaitement, ouais,
en clignant des yeux. Là. Ça prend 30 secondes. Après ça, c'est de ramener le layer. J'essaie le niveau,
le niveau, ouais,
avec le personnage humain sur le niveau digital. Mm-hmm. Déjà dans Star Wars en 77, c'est ça qu'il avait commencé, mm-hmm, à faire avec plusieurs couches de films pour les TIE Fighters, par exemple, mm-hmm, qu'on voit encore comme notre cher ami Oblakov nous disait dans le chat que, justement, on voit quelques défauts des effets spéciaux quand on regarde le film. Mais moi, quand j'écoute Star Wars puis que je re-regarde Star Wars, je vois plein de choses intéressantes qui me sautent aux yeux, puis je trouve ça super intéressant. Puis je me dis, hey, c'est pas juste... les carrés, c'est sûr que je les vois autour des TIE Fighters, mais je vois aussi que ils ont super fait la job de maquillage sur le troisième gars en arrière de Jabba. T'sais. Exemple de même. C'est une très bonne réussite de voir ce qu'ils sont capables de faire. Je trouve ça bien de voir qu'on est capable de prendre une pensée, la rendre semi-physique, sans trop se casser la tête.
Mm-hmm.
Parce que c'est bien beau de dire à un charpentier, tu vas me construire un château de 2000 pieds carrés.
Il y a des limites. Il utilise des modèles dans ce cas-là.
Dans la majorité des cas, parce, mm-hmm, que si on prend les frères Wachowski
c'est qu'un fait de Matrix,
pour, hein, Matrix, qui ont fait construire une autoroute de 2 km de long.
Ouais.
On s'entend que ça n'a pas dû être tout le temps le fun. Tu sais, les gars qu'il faut qu'ils
construisent une autoroute. Mais l'effet est beaucoup mieux. Moi, je regarde dans Matrix, les effets, il n'y en a pas partout. Tu sais, ils se sont servis de t'sais, pour faire des cascades, ils ont pris des vrais acteurs ou des cascadeurs avec des fils ou peu importe. La scène de l'autoroute, c'est très, très réaliste. Les explosions sont, je pense pas qu'ils sont digitales. Je veux dire. C'est certain que des scènes comme la scène dans le premier Matrix, le Bullet Time, comme ils l'appellent, la scène du lobby, là, t'as pas le choix de faire un peu de digital là-dedans, là. Parce que, écoute, là.
Il y a des limites aux
capacités physiques de filmer quelque chose, mais
puis il y a aussi un nombre d'espaces restreints de fil que tu peux mettre dans un même endroit.
C'est ça, mais c'est quand même très réussi, puis c'est pas rempli d'effets spéciaux. Il y en a juste assez, je dirais, de Matrix, c'est un bon exemple de la bonne utilisation des effets spéciaux. Il n'y en a pas trop, puis il y en a juste quand c'est nécessaire. Je dirais même dans le chat, donnez-nous des exemples de films que vous considérez qu'il y a beaucoup trop d'effets spéciaux. Moi, je suis certain dans mon cas, moi, Attack of the Clones, je trouve qu'il y en a trop. Ça donne un super fini, c'est certain, mais je pense qu'il aurait pu faire avec un peu moins.
C'est blasant à la fin.
C'est ça. Tu vois, t'es comme ébloui tout le long. Là, je veux dire, c'est moins naturel parce que c'est tout tellement beau, tellement clean. C'est comme, c'est pas aussi naturel.
On n'est pas rendu loin encore. On est loin du vieux Star Wars qui avait amené les vaisseaux sales.
Ouais, c'est ça.
Déjà utilisés là.
C'est ça, ouais, ils sont quand même sales. T'as encore des marques de laser sur les carrosseries, etc.
Ils rajoutent du vieillissement, mais c'est pas la même chose que les maquettes.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je sais pas si y a du monde qui vont nous avoir donné des films. Si on peut donner des films qui sont complètement CGI présentement, qui existent. Ben, avant ça, j'avais eu un flash tantôt d'un film que le CGI est complètement manqué, The Mummy Returns. Quand t'as The Rock en scorpion.
En fait, j'ai pas vu ce film-là.
Ok.
Mais je vais te prendre au mot.
La majorité des effets spéciaux sont bien. La momie du premier, c'est assez évident. Mais le scorpion du deuxième, on dirait qu'il est même pas final. Là. C'est une version pas finale. Tu le vois que c'est même pas The Rock. Ben, c'est le visage de Dwayne Johnson, The Rock. Mais je veux dire, c'est tellement plastique. C'est comme, ça a pas de bon sens, là. Complètement ridicule. Donc, bon, si on dit des films complètement CGI, moi, il y a Toy Story, Shrek, Monster Inc., Final Fantasy, t'en penses-tu? Y en a-tu d'autres, des films pour ces quatre-là qui seraient complètement Toy Story, Shrek, Monster Inc., Final Fantasy, qui sont complètement CGI?
Ils sont évidemment notre cher Finding Nemo.
Ah, bien sûr, ouais.
Qui a été gagnant d'un Oscar.
Ouais, ça va être, il va y avoir beaucoup de films pas de Disney, mais
Pixar,
d'animation, qui sont plus caricaturales, là, vraiment, là. On peut pas vraiment encore répliquer l'humain, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de films complètement digitales.
Ben, c'est ça.
Mais Final Fantasy était proche. Là, t'as le nouveau qui sort bientôt au Japon, je pense, le nouveau Final Fantasy, le nouveau film sort cet été au Japon.
Sort au Japon, c'est Final Fantasy Advent Children, c'est sur l'histoire de Final Fantasy VII, okay. Mais ça c'est pas aussi bien rapporté que Final Fantasy de Spirit Within.
Oui?
C'est très bien rapporté, mais je pense qu'ils ont arrêté l'évolution.
Ils ont regardé les personnages dans le jeu peut-être, puis ils ont transcrit pour que ça ressemble à dans le jeu au lieu
ben,
de.
Entre autres.
J'ai aucune idée.
Il y a certaines coupes de cheveux qu'on peut avoir là. Puis, je parle de celle de Cloud, qui est le héros principal, justement, dans ce film-là. Mm-hmm. Ça va être un super beau film. Visuellement, regardez, ça va être, je vais dire, quasiment jouissif. Mais tout autant que Final Fantasy l'était. Par contre, c'est sûr et certain que, quand on compare ça avec des animations de Pixar, on est très loin, là. De remplacer l'humain.
Le choix des que les gens ont de, qui disaient qu'il y avait trop d'effets spéciaux.
Il y a Matrix qui nous a été dit par Alpha Blast.
Attack of the Clone, Return of the King. Return of the King, c'est surprenant. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais ça se fusionne mieux parce que c'est mêlé avec des choses naturelles.
Il y a beaucoup de décors qui ont été utilisés.
Exactement. Bon, les Matrix.
Terminator.
Moi, Terminator, je dirais, ouais, ben
particulièrement
le
troisième.
Ouais, c'est ça.
Le deuxième, ça passait encore, mais le troisième, là, il y a vraiment.
C'est ça, il dit Matrix 1, c'est pas pire, 2 et 3,
Il y en a beaucoup.
Deux, ça passe encore. Le trois, là, c'est parce qu'on est rendu que.
Ben, c'est parce que là, voir de, des parce choses. Parce que c'est une bataille de grand déploiement. Mm. Donc, t'as pas vraiment le choix là, de mettre des robots puis des. Tu sais, il y a même des humains là-dedans. Là, ceux, les pilotes des espèces de robots sont digitales aussi. Là.
Effectivement.
Pour Miss Doubtfire, trouve l'effet spéciaux, ben oui. Bravo. Finding Nemo, hein. Titan et E, je l'ai pas vu seul là. Ça, c'était un premier film d'animation. À
Titan
100%,
et E, c'est un 100%. Des films d'animation vraiment là, digital, mais aussi avec dessin. Là.
Ok, c'est un mélange.
C'est un mélange. Il est intéressant, c'est le film. On avait vu la bande-annonce de Titan et E juste avant de voir l'épisode 1, mm-hmm. à la première. Il est sorti comme. Un petit peu plus qu'un an plus tard. C'était vraiment horrible. Mais c'est un film qui est quand même très bien réussi. Mais ça reste dans la catégorie des Pixar, des choses comme ça. On n'est pas encore... On est les films Pixar, les films d'animation, c'est plus l'évolution des dessins animés, mm-hmm. je dirais. C'est de l'évolution de Disney, là, du crayon, puis de la gouache, puis de l'aquarelle à... l'animation par ordinateur. Après
c'est une chose,
ça, si on regarde
une chose que on n'est pas rendu encore au remplacement d'acteur, mais maintenant l'animation traditionnelle, oublie ça. L'animation dessin par dessin là.
Dessin par dessin, ça se fait encore.
Oui, mais je veux dire, genre comme
plus autant
frame par frame là, je veux dire, pourquoi dessiner image par image quand tu peux faire un modèle
Disney animé. C'est encore comme ça qu'ils travaillent. C'est pour ça que ça prend plusieurs
années. Pauvreux, parce que ça ne durera pas très longtemps.
C'est ça. Surtout là, qui ont refusé, qui ont comme défusionné d'avec Pixar, qui n'ont pas renouvelé leur contrat. Mais quand même, ils travaillent encore comme ça. Ça prend plusieurs années à sortir un film, mais ça donne un résultat visuel qui est intéressant pour un enfant de 9 ans.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, moi, mes films préférés, c'est les films, les vieux films de Tic et Tac, de Mickey puis de Dingo puis tout ça dans le temps de Noël, là, qu'on passait ça avec, mais avec le vieux look, tu sais, le look là, qui a trop joué là, à la TV. Ça, j'aime ça regarder ça. Mais quand tu regardes pour les évolutions comme ça, les animations c'est, par ordinateur, les animations numériques, c'est vraiment monté de la pâte à modeler, des choses comme ça. C'est monté des petits effets spéciaux d'un gars dans un suit. Ben, au lieu de mettre un gars dans un suit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait à l'ordinateur maintenant. Mm-hmm. Ça amène du réalisme que le gars dans le suit amenait pas.
Ça peut faire bouger des personnes en armure qui seraient pas capables de bouger.
qui seraient pas capables de s'asseoir.
Exactement.
N'est-ce pas, notre cher ami Snowtrooper, qui nous donne un très bon film. Qui a beaucoup de
Spider-Man
de 3D.
Oui. Oh, sac. Oui.
De numérique. Spider-Man a énormément de numérique.
Spider-Man est beaucoup, pratiquement à chaque fois qu'on le voit, il est en numérique. Quand on le voit voler ou grimper sur les murs, c'est du numérique toujours.
C'est complètement horrible.
Hulk.
Hulk.
Un autre exemple
d'un
mal utilisé,
d'un mauvais film.
Exactement.
Mais X-Men, je dirais pas que dans X-Men, il y en a trop.
Non, parce qu'il y a encore beaucoup
de jeux d'acteurs
là-dedans.
Effectivement. Pour ce qui est de Spider-Man, quand on regarde la bande-annonce du deuxième, on voit qu'ils ont aussi là beaucoup évolué depuis le premier. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai vu juste la bande-annonce du premier puis j'ai fait non. Mais là, on regarde le deuxième, on regarde la bande-annonce du deuxième puis on voit un réalisme qui est apporté que tu fais « Oh, attention! »
C'est ça. L'auto qui revole, ça doit être digital. Là.
C'est ça.
Mais elle a l'air réelle.
Exact. Moi, je me souviens de...
Certain que le méchant, le comment il s'appelle, Scorpio, dans...
Oui.
Bon, ça paraît encore que c'est digital, tu sais.
Ben, c'est Docteur Octopus. Là,
ah, Octopus, pense. C'est ça. Oui. C'est ça. Ça paraît encore que c'est digital. Ils n'ont pas réussi à donner le look parfait encore.
C'est digital, mais quand tu vois certaines scènes, comme par exemple quand tu le vois de dos, puis tu vois comment les bras sont greffés à son corps, c'est assez réaliste. Mm-hmm. Là. C'est sûr qu'ils ont pris, ils ont fait du maquillage, c'est sûr et certain. Mais tu regardes, ils ont bien fait la transition. Il y a Alpha Blast qui nous parle du prochain film de Resident Evil, qui est Resident Evil Regenerate. Voyons.
Je m'en souviens pas.
Régénération, ou quelque chose comme ça.
Ça se passe directement après.
Regenerance, là, ça suit effectivement les histoires là, de notre ami Mila Jovovich, mm-hmm. qui se réveille à Raccoon City puis qui sort. Moi, je trouve que dans... Tu vois un film, quand tu regardes comme ça, qu'il y a beaucoup d'extras qui font énormément de zombies. Puis on peut même voir 28 Days Later aussi dans le, mm-hmm. dans la même...
Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Là-dedans, d'effets spéciaux digitales, ou presque zéro.
C'est ça. Il y en a quelques-uns. Ils sont pas super bien réussis, comme la ville en feu puis tout ça, mais mm-hmm. ils sont quand même là, on le voit, on comprend, on fait bon, il n'y a pas de problème, c'est mignon, c'est cute. Resident Evil Apocalypse, c'est
Apocalypse.
Ça que tu
fais, merci. Okay. Et voilà.
Bon. Daredevil, moi c'est un film que j'ai, c'est Snow Trooper qui nous mentionne Daredevil dans le chat, j'ai trouvé que c'est le meilleur film de comics qui a été tourné jusqu'à maintenant. Puis les effets spéciaux qui sont dedans sont intéressants, sont bon, bien évidemment dérivés de Spider-Man. Les deux, c'est Marvel. Écoutez, mm-hmm. c'est pas, y a pas.
Ils vont passer tous les dessins animés de Marvel.
Les deux sont à New York. Là, arrêtez de me dire, oh, c'est la même chose, c'est du copier-coller. C'est pas le même type de personnage. Il faut connaître les personnages pour bien apprécier le film. Par contre, quand on regarde des films. Comme, je veux remonter dans le chat ici un instant.
C'est Genesica qui dit que dans Harry Potter 1, les effets spéciaux étaient nuls. Je m'en souviens pas beaucoup.
Mais c'est vrai que le Cerbère, il était pas très très croyable.
Okay.
Le petit dragon non plus, même. Il y a des effets spéciaux, là, comme quand ils jouent à leur espèce de jeu là, sur le balai.
Mm-hmm.
C'est pas super, super...
c'est pour ça que je dis quand...
Croyable.
Quand tu fais un film qui a du CGI, faut s'arranger pour qu'il soit parfait. Parce que ça gâche un peu le film. Ça va être amusant.
Les Tortues Ninja. Ouais. C'est ça que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Les films des Tortues Ninja.
OK.
Les gars portent des sauts de 21 kilos, puis ils font quand même des pirouettes avec.
Ouais, c'est ça.
Avoir eu des...
un budget fait du CGI.
Un budget fait du CGI. Il aurait pu rendre les tortues encore plus souples,
mm-hmm.
mais encore plus aussi, c'est un petit peu croyable. Mm-hmm. Parce que là, on le voit, là, ça paraît que c'est des gars dans des...
Moi, c'est ça.
Dans des...
Les mouvements sont très réels, cependant. Je veux dire, tu peux pas avoir plus naturel comme mouvement, mais c'est que tu vois que... Tu vois qu'ils ont la peau molle, la carapace molle, ça, c'est le défaut, là.
C'est ça.
Dans le fond. Comment qu'on pourrait conclure ça? Ben, avant de conclure, on va chercher des commentaires. Je ne sais pas s'il y en a qui vous seraient prêts à nous appeler. Laissez-nous votre numéro de téléphone à sw@hotmail.com si vous voulez que l'on vous téléphone.
Effectivement. Un film de Universal qui va sortir bientôt, il y a le film de Hellboy.
Mm-hmm.
Même déjà dans la bande-annonce, on voit qu'il y a énormément d'effets spéciaux. Ils ont l'air quand même... déjà
relativement bien réussis.
Sont déjà bien réussis dans la bande-annonce. J'ai hâte de voir le film pour voir les effets finaux, là,
mm-hmm.
Comment ça va sortir. Donc, c'est cela. J'ai Elisette ici qui me jasait, qui me disait pas mal la même chose que toi, justement, que si on considère le temps que ça prend pour faire une réaction d'un personnage en CGI, c'est énorme. Tandis que tu peux l'avoir... en une journée avec un acteur. Là. Tu peux finir par lui faire ce que tu veux.
C'est ça. C'est ça, présentement, faire des modèles d'humains et puis les faire fonctionner, ça peut être très long, modéliser toutes les actions, tous les mouvements de visage, etc. Tant que ça, c'est pas réglé puis que ça revient pas moins cher qu'engager un acteur, si ça devient moins cher qu'engager un acteur, là, les acteurs vont se faire... ils se feront plus appeler. Quand ça va coûter moins cher qu'un acteur. Mais il va tout le temps avoir des nouveaux acteurs qui coûtent pas cher, par exemple.
Exactement. Ce qu'il me disait après, plus tard, c'est que oui, c'est vrai que présentement, les acteurs sont étant moins habitués, ils jouent peut-être un peu moins bien, mais la prochaine génération d'acteurs va s'habituer aux écrans bleus,
mm-hmm.
va s'habituer à faire son jeu d'action dans le vide.
Mm-hmm.
Je veux dire, qui ne s'est jamais parlé à lui-même tout seul? Pour répéter un discours ou quelque chose comme mm-hmm. ça, puis il a fait semblant qu'il n'y avait pas une salle devant lui.
Mm-hmm.
Je veux dire, c'est la même chose, là. Sauf
un exposé oral, là.
C'est ça. Sauf que on se trouve à être devant devant un mur bleu, puis quand on voit le résultat final, ben il y a quelqu'un devant nous. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à voir.
Mm-hmm.
Ewan McGregor, d'ailleurs, le dit. Il dit oui, c'est vrai, c'est pas tout le temps facile de tourner devant l'écran bleu, des fois ça devient plate, mm-hmm. mais quand on voit le résultat final, c'est vraiment intéressant.
Mm-hmm.
Donc, Sur ce, nous allons aller à des petits commentaires de nos auditeurs.
Par email en premier. À moins qu'on ait des gens qui veulent nous appeler, je ne crois pas. Est-ce qu'il y en a?
Présentement, on n'a personne qui veut nous appeler. Donc, je vais commencer tout de suite avec un commentaire de Jeremized. À la sortie de l'épisode 1 et 2, beaucoup ont critiqué, notamment dans la presse, que Star Wars avait cédé à la tentation des CGI et avait fait une histoire moins bonne. Personnellement, j'ai jamais été de cet avis et j'aime voir un film qui soit beau visuellement. Les effets spéciaux ont contribué à l'immersion dans l'histoire et ils existent depuis le début de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est le cinéma lui-même qui est considéré comme le premier effet spécial avec le principe de la persistance rétinienne pour tromper l'œil et donner l'impression d'un mouvement à partir d'une série d'images fixes. Cette invention date de 1895. Certes, les effets ont évolué en 100 ans et les CGI apportent un réalisme incroyable, mais les effets spéciaux ont toujours été liés de très près à l'évolution du cinéma. Sommes-nous en train de passer une étape clé de l'histoire du cinéma avec les CGI? Sûrement. Est-ce que les acteurs ont à craindre pour leur job? Là, j'en suis beaucoup moins sûr. Final Fantasy en 2001 est un film d'animation 3D qui présente les premiers humains photoréalistes dans un film entièrement numérique. Mais bon, le film a été un échec. Les acteurs ont encore de beaux jours devant eux. J'irai pas jusqu'à dire que le film de Final Fantasy The Spirit Within a été un échec. Je trouve qu'il a été bien accueilli par le public, mais je pense qu'il s'attendait à encore plus. Niveau CGI et tout.
Ben, c'était rendu là. Il était long à faire, il me semble, ce film-là. Je me souviens pas.
Il a pris 2 à 3 ans, parce que je me souviens que c'est dans une des vieilles versions de cette lan qu'on avait un de nos collaborateurs qui nous en parlait
régulièrement.
Régulièrement. Effectivement.
C'est justement, je disais ça au début, c'est plus il y a d'effets spéciaux, plus la post-production est rendue tellement longue, tellement ardu que les films s'étirent et ça coûte des millions de dollars. Je veux dire, il y a des films qui sont tournés en 30 jours, puis t'as juste un montage pratiquement à faire après et le film est prêt pour le cinéma.
C'est ça.
Tu sais, quand il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, tu payes des grands acteurs dans ce cas-là, puis ton budget il vaut pour les acteurs et non pour le décor.
En fait,
le
cinéma, c'est comme aller au théâtre, sauf que ça coûte moins cher.
Exactement.
Donc, il y a Elisette qui nous dit encore qu'un effet spécial réussi, c'est un effet avec plusieurs techniques combinées. Oui, effectivement, tu as le réalisme, tu as la réflexion, les réflexions de la lumière, des choses comme ça.
Les effets de lumière, etc.
C'est assez important. J'ai hâte de voir, il est en train de maîtriser quelque chose.
Okay, je prends un autre email en attendant.
Alors, il y a Jenna et Silka qui nous partagent ceci. Les technologies numériques ne risquent pas de faire de l'ombre aux acteurs, du moins pas pour le moment. Elles sont encore chères et visibles. Dans Spider-Man, on peut facilement repérer la doublure numérique, même si c'est très pratique, ce n'est pas parfait. Cependant, l'amélioration des techniques et la baisse des coûts pourraient entraîner une plus forte utilisation des CGI. Je pense que les cascadeurs sont plus menacés que les acteurs. Il nous faudra toujours des acteurs pour les gros plans sur les humains, mais un cascadeur qui est par définition peu visible à l'écran a du souci à se faire. Le CGI est plus utile pour les personnages qui ont une apparence humaine, qui n'ont pas une apparence humaine, Yoda, Dobby, Hulk, Gollum, et permettent de donner vie à ces créatures sans avoir tous les problèmes. Des acteurs qui ont du mal à respirer sous des masques, etc. J'ai lu récemment que ILM avait mis au point une amélioration au CGI, la texture sous surface, de façon à reproduire l'effet de la transparence partielle de la peau, utilisée pour Dobby et Hulk. L'épisode 3 bénéficiera donc d'un meilleur Yoda que l'attaque des clones. Il faudra encore beaucoup de temps et de progrès pour qu'on ait l'impression d'avoir un véritable non-humain filmé à la caméra, mais on s'en rapproche de plus en plus. Donc, oui.
Ça, je dis, moi, dans 10-15 ans, là, attention. Puis en plus, la puissance des ordinateurs va augmenter, etc., etc. Donc, ça va faire peur, là. Je veux dire, tout dépend, je veux dire, écrire un... Qu'est-ce que c'est ça? OK.
Écrire un...
comment dire, faire un film avec beaucoup de CGI, si tu engages des gens qui coûtent pas cher pour le faire puis qui ont le talent de le faire, ça va être rentable. Mais si tes animateurs coûtent 50 000 par année chaque, ça revient cher. Il faut que le film soit un grand succès quand même. Normalement, ça passe, là, ça veut dire, pour un film. Là.
Alors, on va faire un petit appel à notre ami Elicite, qui travaille sur un fanfilm qui s'appelle Le Temple Jedi,
en
tant qu'infographiste.
Le numéro composé n'est pas en...
Bon, on recommence. Je suis désolé.
Il y a peut-être... dans la séquence, tu t'es peut-être mêlé. Je suis cette séquence-là. C'est un appel en Europe, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? On va réessayer. Ah, je sais, c'est quoi mon erreur, en fait. voyons. Pardon.
Et on appelle en direct, bien sûr.
Effectivement. Les Français ont des drôles façons d'avoir des... Vous avez des drôles de numéros de téléphone. Et c'est un blanc de radio.
Un blanc de radio, bien sûr. Écoutez la musique en arrière-plan pendant ce temps-là.
Et voilà. Bon.
Est-ce qu'on va avoir la sonnerie européenne?
Je crois bien que oui. Et voilà. Bon.
Allô?
Bonjour, Elicite.
Oui.
Ça va bien?
Très bien.
Je viens de trouver un petit jeu de mots à ton nom. C'est très bien, ça. C'est illicite.
C'était le but, je crois, de ton pseudo.
Ouais, ouais.
Alors, c'est quoi tes commentaires, toi, par rapport au CGI et Hollywood? On sait que tu travailles sur les effets spéciaux du fan-film Le Temple Jedi.
Voilà.
Et puis, c'est quoi tes commentaires par rapport à ça?
Ben, c'est juste pour dire que ça donne surtout une plus grande liberté aux réalisateurs. Et surtout pour nous qui faisons le fan-film, là, on n'aurait jamais pu faire le fan-film si on n'avait pas eu CGI et tout ça.
Mm-hmm.
Et puis aussi, pour réagir aussi à ce que j'avais dit, là, un effet réussi, c'est avec plusieurs effets différents.
Ouais.
Ben, faut voir aussi, parce que ils disent dans un documentaire de l'épisode 2, sur le DVD, que... La plupart, enfin, ils créent encore des miniatures, parce que c'est plus long à le faire en 3D, donc ça dépend, et le CGI n'est pas partout aussi.
Donc faire des décors comme la Reine de Jaune aussi, c'est en modèle est beaucoup plus rapide et économique que tout faire ça en digital, dans le fond.
Ouais, parce que moi je suis infographiste, et puis quand je vois ça, je me dis, si ça avait été fait en 3D, ils auraient fallu des siècles pour pouvoir avoir... un niveau de détail pareil, quoi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des maquettes dans votre fan film que vous allez utiliser, ou c'est seulement des effets spéciaux traditionnels CGI?
Ben, en fait, nous, on travaille surtout sur les écrans bleus et même des scènes complètement en 3D, mais il y aura sûrement quelques petits éléments réels. Il y aura aussi des décors. Bon.
Bon, ben, quand votre fan film sera prêt, on en reparlera, j'en suis sûr.
Ouais, il y aura bientôt une teaser, bientôt, donc...
C'est parfait, ça. Je crois que c'est le-temple-jedi.com, est-ce que c'est ça?
Voilà.
Et voilà. Donc, on a fait la publicité. Bon, ben merci beaucoup, Elicite.
Ouais, salut.
Salut.
Et que la force soit avec vous.
Merci, avec toi aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que l'on leur téléphone?
Effectivement, on est prêt à vous ouvrir, nous autres, on est prêt à vous ouvrir, on est prêt à vous appeler.
Exactement.
Sans aucun problème si vous avez des commentaires sur le CGI Hollywood.
Exactement.
Il y a José Miro qui parle de l'étape un peu. Bonjour à tous, deux façons d'analyser l'impact du CGI sur Hollywood et la façon de faire du cinéma en général. Premièrement, sans l'apport et la facilité d'accès à la technologie numérique, il n'y aurait pas de fan-film, pas de film l'étape. Ce serait presque impossible de réaliser nos idées et nos rêves. Tandis que depuis environ 1998, nous pouvons réaliser environ 70% de ce que nous imaginons. L'impact est le même avec un budget gigantesque à Hollywood ou ailleurs. Certains effets, certaines scènes et certains films ne pourraient être créés sans la technologie numérique. Les exemples ne manquent plus. L'envers de la médaille... c'est qu'il est maintenant presque trop facile de faire du numérique. Pourquoi se casser la tête à faire des maquettes et de la miniaturisation, comme la trilogie originale, lorsque l'on peut le faire via le numérique? Le résultat peut être très décevant. Exemple, Star Wars, Yoda qui est fâché, les robots contre les Gungans, des explosions dignes d'un jeu vidéo très moyen, Et vous savez, il est très difficile de faire une explosion réaliste en numérique. C'est bien mieux de prendre un vaisseau qui vaut 600$ et de le faire sauter avec des explosifs et le filmer sur plusieurs angles. Je fais des farces, mais c'est tout de même la réalité. Quand on se souvient des premiers TIE Fighters de Star Wars, effectivement, il a fallu qu'il les fasse exploser, puis il a fallu qu'il en fasse plusieurs copies. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir un morceau de ces TIE Fighters-là aujourd'hui? Enfin, il serait idéaliste de croire que l'impact de la technologie numérique ira en diminuant. Pensez qu'il y a à peine 10 ans, la technologie utilisée pour le parc jurassique était une révolution, alors qu'aujourd'hui c'est presque banal. Je ne peux pas diminuer l'impact du numérique, mais s'il vous plaît, ne réduisez pas l'importance d'un bon scénario, de bons acteurs, d'une bonne direction artistique, etc. Vous savez, je dis toujours à mon partenaire pour l'étape que le 3D se doit de demeurer un accessoire et le noyau du film. Je ne veux pas voir un film pour ses effets spéciaux et encore moins un jeu vidéo lorsque je vais au cinéma. Je veux voir un film point à la ligne, un film avec de l'imagination, de la créativité, etc. Évidemment, il y a plusieurs petits effets numériques qui peuvent être ajoutés sur des scènes tout à fait normales, coucher de soleil avec des reflets, etc. Ces effets peuvent passer inaperçus, mais sauvent beaucoup de travail et éliminent les casse-têtes et les erreurs de continuité pour les réalisateurs. En terminant, il voudrait saluer tous les auditeurs de Star Wars en direct et de Citlan, et il nous dit de surveiller la sortie de l'affiche officielle du fan-film L'Étape cette semaine. Vous l'avez entendu pour la première fois en Star Wars en direct.
Donc, on va aller dans le forum maintenant, si on n'a pas d'autres emails.
On n'a pas d'autres emails.
On n'avait pas Jeremiah dans l'email, on avait Jeremiah.
C'est lui.
Ah, bon Dieu.
C'est toi qui m'écoutes pas.
Bon, dans le forum, on a Dalt qui a répondu. Je trouve que maintenant, les images de synthèse vont bientôt tout remplacer. Certaines sont complètement bluffantes. Le personnage numérique de Legolas, certains y trouveront des erreurs, mais moi, à chaque fois que je le regarde, je trouve ça parfait. D'autres moins, les clones dans l'épisode 2, par exemple. Mais je crois que rien ne remplacera les acteurs pour les scènes simples et même pour les personnages numériques. On utilise tout le même visage de l'acteur. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux à 100% réussi, alors que certains de ILM commencent à désirer. Enfin, pour conclure, je dirais que vivent les effets spéciaux, mais qu'ils ne remplaceront jamais les vrais acteurs. Oups. Lord of Deception. Bon, travaillant moi-même dans cette industrie, je pense que je peux peut-être répondre à certaines questions. Malheureusement, comme Dalsk dit, il y a de grosses chances que le CGI remplace bien des choses. La technologie a énormément évolué depuis qu'on a vraiment... La première fois qu'on a vu du CGI, je suppose, soit un peu plus de 10 ans environ. Regardez Final Fantasy. Bon, que les personnages étaient vraiment mal animés et sans vie, mais le rendu est assez réaliste. Il y a juste le professeur qui était vraiment bien réussi, comme tu disais tout à l'heure.
Le Dr. Sid.
Exactement. Ça a pris plus de 5 ans à Square USA pour faire ce film-là, parce que avant, ils ne pouvaient pas dû à des problèmes de technologie. Maintenant, je sais qu'il y a des compagnies qui travaillent à développer et à faire revenir des acteurs morts en CGI, mais ils ont de problèmes de droit présentement. Ouf. S'il vous plaît, quand vous écrivez, essayez de
de bien ponctuer vos phrases. Ouais,
imaginez un film d'action avec Elvis. Weird. Personnellement, je suis contre, mais bon, que voulez-vous. Dalsk a souligné un point qui se fait remarquer dans l'industrie. Effectivement, la qualité d'ILM serait-elle en baisse? Bien, je pense qu'en réalité, elle s'est juste fait passer par d'autres. Weta Digital ont vraiment fait du bon travail dans Lord of the Rings. Tippett Studio, Hellboy, Matrix, Starship Trooper, etc. et Sony Digital, Spider-Man, Little Stewart, etc. et bien d'autres studios ne cessent de lever la barre. Alors pourquoi ILM, ça monte moins? Bien parce que les meilleurs partailleurs. Je travaille présentement avec un gars qui travaille sur Star Wars, qui a travaillé sur Star Wars, The Phantom Menace, Mommy et autres, et un autre gars qui était chez Sony Digital. Il était en charge de modéliser Spider-Man. Et puis, Eux sont deux anciens de ILM, ils disent la même chose. ILM ont certaines choses à changer, apparemment, s'ils veulent garder leur monde. Anyway, c'est ce que j'avais à dire.
Bon.
Donc, je sais pas si c'est mauvaise ambiance de travail, mauvais salaire, on ne sait pas.
Il y a Elisette qui réagit ici à Patrice, le réalisateur de l'étape, qu'il y a aussi Forrest Gump qui avait plusieurs effets spéciaux. Fait par ILM, mais ils ne se voient pas tous. Il n'y a pas juste Star Wars là, qui a des effets spéciaux dedans. On va appeler maintenant Snowtrooper.
Ok.
Nul autre que lui-même sur la rive sud. Puis on continuera avec les réponses du chat par la suite.
Oui, allô.
Bonjour, Snowtrooper.
Oui.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Bon. On sait que toi, tu es un artiste qui fabrique certains matériels de temps à autre dans tes temps libres pour certains films.
Oui.
Et on sait que tu aurais plus tendance à prêcher ton église pour le CGI va jamais remplacer les acteurs.
Non, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime mieux un Chewbacca que sans Jar Jar Binks. Je trouve que toi personnellement là, Chewbacca c'est vraiment celui que je trouve qui représente le plus au niveau Star Wars là, l'effet spécial idéal pour les personnages. Et tu vois qu'il y a du caractère qui est beau, que c'est Chewbacca, un Gamorrean Guard, c'est des personnages qu'on pourrait pas refaire en numérique selon moi, puis qui auraient un aussi beau look.
Pas présentement, en tout cas.
J'espère, en tout cas, que George n'osera pas aller faire des Wookiees en numérique. S'il est fait, il a besoin d'être bon en maudit.
Ah, il va sûrement en avoir, j'imagine.
Ben, il y en avait déjà dans l'épisode 1.
Ouais.
Dans l'épisode 2, je pense qu'on les revoyait aussi dans le Sénat. Là.
Ouais.
Mais on les voit très brièvement de loin, donc ça paraissait quand même pas si pire. Mais on peut dire qu'il n'y a rien qui vaut un bon vieux costume.
Ben, c'est ça. C'est parce que tu as quand même le jeu de l'acteur. C'est certain que même n'importe quelle créature peut être digitale, peut être acquittée par un acteur avec des points de un acteur en collant des petits points blancs là.
Ben, c'est ça.
Ça peut être quand même acquitté de cette façon-là et puis remplacé en numérique par la suite. C'est peut-être plus l'effet par exemple dans l'exemple d'un Wookiee du poil ou peu importe qui va être beaucoup plus difficile à refaire présentement. Mais que ça s'en vient quand même de plus en plus réaliste.
Oui, ben, c'est peut-être aussi la nostalgie là, qui fait que...
Oui, ça c'est sûr, mais la nostalgie des fois,
ouais.
On peut pas éviter l'évolution.
Oui, mais regarde un exemple que je te donnerais, les Stormtroopers face aux clones.
Ouais.
Tu trouves quand même qu'un Stormtrooper en costume avait plus de prestance qu'un clone dans le film.
Oui, c'est certain.
Tu vois la différence quand tu regardes le... sans parler de Jabba, là, bien entendu.
C'est ça. Mais c'est ça, comme par exemple dans le cas de l'attaque des clones, tu n'aurais pas pu avoir, mettons, 1000 Stormtroopers faire, ou simplement quand le Clone Trooper s'accroupit pour ramasser Padmé, je pense pas que quelqu'un en armure aurait réussi à bien se positionner comme ça, n'est-ce pas?
S'il aurait réussi, ça aurait été un magicien. C'est parfait.
Effectivement, parce que il y a de la, entre guillemets, de la souplesse qui est quand même assez difficile à obtenir avec ces armures-là.
Non, on s'entend. Il n'y a aucune souplesse possible avec ces armures-là.
Bon. Exactement.
Ben, merci beaucoup pour tes commentaires, David.
Ben, ça fait plaisir.
À la prochaine.
Salut. Je.
Bon, on continue dans le forum avec Someone. Son avis. Disons que je suis pas mal d'accord que les effets spéciaux commencent à prendre beaucoup de place. Certains trucs sont de trop, peut-être. Mais là où je voudrais en venir, c'est que la majorité des gens de ces temps-ci n'en ont que pour Lord of the Rings. Et bien personnellement, avec Return of the King, j'ai été dégoûté de voir que contrairement au premier film, l'équipe d'effets spéciaux font de plus en plus d'effets et ceux-ci sont de plus en plus laids. Enfin, j'ai trouvé le dernier film complètement déficient en termes d'effets. Ils ont fait exactement ce que l'on reproche à Star Wars, trop d'effets. Je n'ai pas trouvé du tout que ceux-ci paraissait mieux que ceux de Attack of the Clones, loin de là. À part Arachne. Arachne, ça doit être le Shelob, là.
Ouais. Ouais, effectivement.
C'est vrai que si tu considères le Fellowship of the Ring, c'était beaucoup. Il y a beaucoup moins d'effets spéciaux. C'était beaucoup plus de acting. Il y avait beaucoup plus de jeux d'acteurs puis de décors naturels que dans Return of the King. Mais encore, Return of the King, c'est tout ce qui est grand déploiement que t'as pas le choix de faire en CGI. Bon, je continue. Someone dit, je dirais que des effets spéciaux plus espacés et plus timides, tels que ceux dans les films à moindre effet, tels que Big Fish, passent beaucoup mieux. Et je crois que dans ce sens, les effets spéciaux paraissent bien. Il est intéressant de pouvoir réaliser des trucs impossibles sinon, mais il va falloir prendre garde à ne pas remplacer l'acteur. Et ça s'approche de plus en plus de ce sens. Pour ce qui est des films tels que Final Fantasy, j'ai particulièrement adoré. Mais il est sûr qu'il ne faudra pas que ce genre de film prenne la place de ceux auxquels on est habitué. Un film d'animation, c'est souvent super à voir. Les derniers majeurs étant particulièrement réussis. Merci à Pixar, entre autres. J'ai bien hâte de voir Shrek 2. Pour ce qui est de ILM, je...
Continue.
Ok.
Pour ce qui est d'ILM,
je dirais... Fais pas comme l'âne dans le...
C'est exactement ça.
Pour ce qui est de ILM, je dirais pas qu'ils sont rendus moins bons, mais plusieurs années à faire Cavalier seul, c'est normal que maintenant plusieurs compagnies aient atteint son niveau et peut-être même le dépassé. C'est un peu qu'est-ce que Lord of Deception mentionnait.
Donc le petit... c'était pour imiter notre cher ami Donkey dans Shrek 2, c'est ça?
Mad Noroid. C'est vrai que dans les deux derniers Lord of the Rings, certains effets spéciaux laissaient à désirer, comme par exemple les Wargs et les Legolas, qui fait des acrobaties mal animées. On dirait que le budget des effets spéciaux a été concentré sur Gollum, mais je trouve en revanche que cela a valu la peine. J'ai aimé The Two Towers juste à cause de Gollum qui a donné une performance vraiment exceptionnelle pour un personnage numérique. Le Yoda numérique de Attack of the Clones a l'air pas pire, surtout dans la scène du meeting chez Palpatine où on voit d'impressionnants détails lors de gros plans. Aussi, il faut pas abuser du CGI parce que quand ça paraît que c'est numérique, l'effet est raté. Attack of the Clone avait les meilleurs arrière-plans numériques, surtout avec Coruscant, tandis que Lord of the Rings avait des créatures cool comme le Balrog et Gollum. Personnellement, je trouve que le meilleur Yoda jamais fait est celui d'Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Mais ça, c'est mon opinion.
Je me joins à ses côtés. Tout à fait.
Elle était bien animée, était animée naturellement. Là.
C'est ça. Une chose qui est intéressante, qui est dommage parce que nos auditeurs français pourront pas vraiment le visualiser, mais dans l'attaque des clones, sur la version IMAX en particulier, les yeux de Yoda montraient même jusqu'au reflet de Dooku puis de toute la salle, puis c'était vraiment là. Ils ont passé énormément de temps sur les yeux de Yoda. Puis, surtout sur IMAX, on le voyait très bien, parce que c'était vraiment grossi. Puis, ça donnait quelque chose quand même de réaliste, là, Yoda.
Mm-hmm. Padmé Amidala, maintenant, dans le forum, moi, j'ai rien contre le CGI. Si ça aide à rendre un monde imaginaire crédible, comme bien sûr Star Wars et Lord of the Rings, c'est parfait. Ça ouvre de nouvelles portes, car vraiment, les cinéastes peuvent vraiment laisser libre cours à leur imagination. Bien sûr, cela ne remplacera jamais le jeu des acteurs. Ils risquent de rendre leur travail plus difficile. Par exemple, la technique du blue screen dans Star Wars, qui force les acteurs à imaginer la scène et le décor. Je crois cependant que le CGI, à lui seul, ne peut pas contribuer à rendre un film plus intéressant. Il faut des bons acteurs, une bonne histoire, des beaux costumes, accessoires et de la bonne musique. Ce que les films comme Star Wars et Lord of the Rings réussissent très bien, à mon avis. Je considère donc le CGI comme un domaine artistique contribuant au même titre que tous les autres à la production d'un film. D'après moi, les artisans ne manqueront jamais de travail dans le domaine du cinéma. On a pu voir l'énorme travail que l'équipe Weta Workshop a pu faire sur Lord of the Rings malgré le grand nombre d'effets spéciaux. C'est vrai pareil, hein? Ils ont tous fait les armes à la main, etc. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, deux répliques qu'on va passer. Maintenant, fait de la pouite. Avant Star Wars, les effets spéciaux étaient dans la pâte à modeler. Mais avec ILM, ça a pris tout un bond. C'est bien de croire que les choses sont réelles alors qu'elles ne le sont pas. Cependant, ça devient grandement exagéré. Déjà, deux films sont entièrement faits par ordinateur, Final Fantasy A Spirit Within et Final Fantasy VII, The Advent Children, sort au Japon cet été. Si on regarde les deux derniers Star Wars, ce sont vraiment des effets spéciaux qui sont en vedette. Empire Strikes Back avait une histoire au moins.
Ouf!
Enfin, les effets spéciaux auront toujours une place, mais il ne faudra pas qu'ils envahissent sur l'écran. Oups. On recommence.
Il ne faudra pas qui.
Enfin, les effets spéciaux auront toujours une place, mais il ne faudrait pas qu'ils envahissent plus l'écran qu'ils ne le font déjà.
D'accord. On va faire quelque chose de très rare. On va appeler quelqu'un en direct, mais quelqu'un qui est dans un bureau d'animation, de ce que je peux voir.
Ah ouais?
Donc, il y a une extension, il faut qu'on compose l'extension.
OK.
Donc, on a aussi d'autres personnes, mais là, il commence à malheureusement nous manquer d'espace temporel. Oui, il devrait parler français. Je l'espère.
Allô?
Fred?
Oui.
Bonjour.
Hey, salut.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Alors, qu'est-ce que tu fais dans les lointaines comtés de Toronto?
Oui, ben, c'est ça. Ben là, je suis venu travailler sur un firme ici. Puis là, ben, c'est ça, l'affaire, votre affaire. Voyons. Une mission sur le CGI, mais je trouve ça cool. Ça se rapprochait à moi, fait, je me suis dit. Je vais parler de ce que j'ai à parler. Hein.
D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais en tant que tel comme travail du?
Hein?
De l'animation 3D?
Ouais, c'est ça.
OK. Puis, est-ce que tu crois qu'avec les techniques nouvelles qui arrivent à chaque jour, qu'éventuellement les acteurs vont être remplacés par les techniques par ordinateur?
Ben, ouais, mais. Moi, j'avais envoyé un message. Je sais pas si vous l'avez lu tantôt en ondes. Ouais, je pense que. Non, je pense pas vraiment. Ben, je pense que ça va arriver, oui, effectivement, mais.
Peut-être dans une dizaine, quinzaine d'années que ça va remplacer les acteurs.
Ben, dans 15 ans, ouais. Ben, c'est dur à dire parce que présentement, je pense. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de développement qui se font. Et le point est que ça va remplacer, c'est dur à dire. Comme je disais, dans Final Fantasy, ils ont essayé de le faire. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a juste le professeur qui a vraiment bien fait. Comment ça va se faire, effectivement? Mais comme aussi, je le débatte, le projet, comme je le débatte du fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que vous faites un certain mélange entre les VFX et les films d'animation. C'est comme
okay.
Je disais qu'il y avait trop... Il y en a qui disaient qu'il y avait trop de CGI dans Finding Nemo, tu sais.
Parce que c'est sûr, c'est de l'animation,
c'est,
là.
C'est juste d'être ça.
Un film d'animation, là, puis totalement différent. Il y a beaucoup de films qui ont des effets spéciaux, puis vous savez même pas qu'il y en a. Ça va être juste des backgrounds comme des matte painting ou des petites explosions.
Ouais, c'est des ça, explosions.
Le CGI, il va toujours être là maintenant parce que ça facilite certaines choses.
C'est pourquoi faire exploser une voiture
pour, justement.
Quand tu peux le faire digital puis sauver une voiture.
C'est ça.
Des frais de coût, des frais de production qui sont vraiment, vraiment importants. Puis, c'est ça, c'est comme. C'est là, présentement, si je travaille sur une production, puis il faut que j'anime une explosion de capteur, puis on ne pourrait pas se permettre de faire exploser des hélicoptères.
Est-ce que c'est trop discret de te demander sur quoi, sur quel film tu travailles?
Ah, je peux pas dire sur quoi je travaille. avec Christian Slater.
Oh, OK. Oh. On a un indice.
Mais c'est ça, c'est 5 ans que je travaille là-dedans, c'est comme ça, je rencontre pas mal de monde, puis c'est quand même un petit milieu, mais c'est surtout ça que je voulais dire, là, comme, pour plus tard, ouais, je pense pas que le CGI va remplacer, ça va arriver, mais pas encore pour toute la technologie, pas encore rendu là.
C'est ça, on est encore loin, là, de l'équivalence de The Matrix.
De vivre dans la matrice, c'est ça qu'il veut dire, Sébastien, là.
Ouais, ok, ouais.
Ah, ok,
je comprends.
Non, mais ça,
c'est bon.
C'est bon, merci Fred.
Bon, c'est ça, parfait.
Bye.
Bye.
Bon, voilà. Un appel à la dernière minute de quelqu'un qui n'était pas dans le chat. On fait très, très comme jamais ça.
Ouais, c'est ça, c'est très rare.
Donc, effectivement.
Je vais relancer la webcam.
Élicite qui nous reparle qu'effectivement les effets spéciaux CGI c'est relativement nouveau et que ILM c'est comme un enfant qui joue avec son nouveau jouet. Éventuellement elle va finir par le maîtriser pleinement et réussir à faire une bonne une bonne robe avec.
OK. Bon.
Et voilà.
On va une pause musicale maintenant. Je pense qu'on a fait le tour, en gros. Il y a sûrement d'autres choses, mais on manque de temps. Donc, je rappelle qu'après la pause, on va discuter avec Thierry... Maudit, j'ai ma feuille, j'ai plus ma feuille.
À la recherche de la feuille perdue.
Exactement. Thierry Terrasson, qui a fait le... qui a réalisé le film George le film. Exactement. Le fan film George le film. Donc, si vous avez des questions à lui poser, allez dans My Room One et laissez vos questions là. On va revenir après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
My liberty. Oh, my, my. It's just a change in something in my liberty. Oh, my, my. It's just a change in something in my liberty.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Re-bienvenue en ondes sur Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Nous avons en ligne le réalisateur du court-métrage Georges, et aussi des films Le Jeune, Les Amours Magnifiques, Chippy et Sanjil, qui ont tous été décorés dans différents festivals français. Star Wars en direct souhaite la bienvenue à Thierry Terrasson, alias Jim. Bonjour Thierry.
Salut Danny.
Ça va bien?
Ouais, ça va très très bien. Il est quelle heure chez vous là?
Il est 15h.
D'accord.
Alors, la première chose que je vais te demander est de nous faire un portrait de toi-même, de ta carrière jusqu'à présent, autant côté cinématographique, télévision et de la bande dessinée.
D'accord. Alors, en fait, moi je suis un vieux de 37 ans. Je fais de la bande dessinée depuis tout gamin, depuis toujours. Ça a été une espèce de ligne droite. J'étais passionné par la bande dessinée et le cinéma. Sauf que quand on est gamin, c'est plus simple de faire de la bande dessinée. Donc je faisais mes propres albums auto-édités et tout ça. J'ai passé ma vie à dessiner, à écrire des histoires. Et donc je me suis retrouvé chez des éditeurs à publier des albums. Mais à côté de ça, il y a toujours ces espèces d'envies autour du cinéma qui me tarabisquaient. Et ce qui fait que dès que j'ai eu un petit peu de droit d'auteur, j'ai investi pour acheter du matériel en fait pour pouvoir tourner des courts-métrages de façon indépendante.
Etc. C'est que j'ai vu sur le site de Georges que tu avais produit beaucoup de films. Est-ce que tu peux en nommer quelques-uns? Participer aussi.
Ouais, il y a quelques courts-métrages. Il y a Le Jeune, Chippy Saint-Gilles, effectivement, qui était le tout premier qu'on a fait quand on avait 18 ans. On a fait ça avec mon frère. Ça nous a pris 3 ans. Un autre qui s'appelle Les Amours Magnifiques, ce qui a toujours été très agréable en fait. On les a toujours fait de façon sans budget et bricolé. Et ça, c'est quelque chose moi que j'aime bien, enfin, qui est une grande liberté. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'idée d'aller chercher des sous, des financements. Et systématiquement, les films ont eu des prix. Donc, c'est très, très encourageant. Et petit à petit, de fil en aiguille, en fait, il y a eu cette espèce d'envie de faire un film autour de Star Wars. Enfin, je suis un gros fan depuis tout gamin, depuis que j'ai découvert l'Empire Contre-Attaque au cinéma.
C'était ma question suivante, d'ailleurs. Es-tu un fan de Star Wars de longue date?
Pardon?
Es-tu un fan de Star Wars de longue date? C'était ma question.
J'ai découvert à 15-16 ans, j'ai découvert l'Empire Contre-Attaque. Ce qui fait que c'est presque une malédiction, parce que bon, c'était la béatitude absolue, le film le plus sombre et tout ça. Du coup, j'ai été systématiquement déçu en fait par tous les Star Wars que j'ai vus après, puisque j'ai commencé par le meilleur. Mais du coup, la tête travaille beaucoup, c'est-à-dire que moi, c'est pas tant le moment où on voit le film en lui-même, mais c'est tout le... Là, j'adore par exemple la période qu'on est en train de vivre, parce qu'on sait que le prochain ne sortira que dans un peu plus d'un an, et ça y est, on peut le fantasmer. J'aime beaucoup attraper les rumeurs, essayer de fantasmer ce film, de l'imaginer. Et en fait, c'est autant de bases de scénarios possibles, c'est autant de, d'idées qui nous viennent, qui vont alimenter de futurs scénarios.
Mm-hmm. Quelles sont tes attentes, justement, par rapport à l'épisode 3?
Je suis comme tout le monde, j'attends qu'il soit très sombre. Moi, j'avais un fantasme, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de garde rapprochée de l'empereur de 2-3 Dark Vador. Et qu'il y ait des combats avec des Dark Vador comme ça, et qu'à la fin, Anakin brûlé dans son volcan, alors que les différents Dark Vador auraient été tués, soit récupéré et devienne lui-même un Dark Vador, quoi. Ça aurait été chaud. Et apparemment, il n'y aura qu'un Dark Vador, de toute façon. Donc voilà, par exemple, ça, c'est typiquement ça. C'est typiquement du fantasme. C'est imaginer les choses. Et forcément, on a 2-3 ans pour imaginer un Star Wars. On peut être que déçu quand on le voit. Même si, systématiquement, quand je les revois passer la première déception, il y a toujours plein de petites choses qui m'éclatent et qui font que... Ben non, de toute façon, je suis fan. Donc il n'y a pas... Même si les films, je ne trouve jamais parfaits et vraiment, vraiment bons, il y a toujours des scènes enfin, qui me font vraiment rêver. Quoi.
Ouais. Maintenant, on va parler du fan film George en tant que tel. Pour ceux qui ne connaissent pas la prémisse de George, peux-tu nous la décrire en quelques lignes?
Ben, George, d'abord il faut que je le place absolument. Si vous voulez des renseignements sur George, il faut aller sur le site, c'est georgelefilm.com, donc tout en attaché. Et le pitch en deux mots, c'est un fan de Star Wars qui tombe sur George Lucas et ils vont passer un week-end ensemble. Et le principe, c'est qu'il s'avère que George Lucas est un vrai déconneur dans la vie. Donc c'est une espèce de virée dans Paris, dans les boîtes de nuit, une espèce d'amitié folle. En fait, c'est un fantasme absolu de tout fan de Star Wars, je suppose. C'est tout d'un coup de rencontrer George Lucas et que George Lucas nous dit « Ouais, j'ai des problèmes, j'ai pas beaucoup d'idées pour le prochain. » Et le fan, il s'excite, il dit « Mais attends, mais j'ai que ça, moi, des idées. » Et c'est une projection... vraiment très très égoïste d'une chose dont je rêve absolument, quoi, d'avoir George Lucas qui appelle et qui dit « Mais vous n'avez pas des idées parce que là je suis à sec.
» Justement, d'où est venue l'idée justement de faire un film comme ça?
En fait, c'est des rêves. La base même, et ça aussi, moi je suis très normal, hein, j'ai des goûts très normaux, donc je suppose que systématiquement, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dedans, et il y a plein de choses qui doivent rêver la même chose. Plein de fois, j'ai rêvé à l'approche d'un Star Wars, que George Lucas venait me voir et disait « Ah, tu veux pas assister à une avant-première ?» Et je me retrouvais dans une salle à assister au Star Wars qui allait sortir dans 6 mois ou 1 an. Mais c'était souvent très cruel. Je me souviens vraiment donc j'ai des souvenirs comme si je l'avais vécu, de me retrouver par exemple dans des salles de projection qui étaient très... c'était une sorte d'hacienda mexicaine avec des arbres. Et d'où j'étais, je pouvais mal voir le film. Il y avait tout le temps des arbres devant moi, j'essayais de me décaler, tout ça. Des espèces de moments où on pourrait le voir et puis on le voit pas vraiment. Enfin, c'est toujours très frustrant. Donc c'est parti de ça, en fait, tout simplement. Cette espèce de désir de connaître George Lucas vraiment. Et après, en fait, quand j'avais écrit le scénario, j'avais trouvé mes acteurs, et un copain m'a dit « Mais attends, tu n'as pas vu à la télé, ils ont parlé d'un court-métrage autour de George Lucas, et qui est le fameux George Lucas in Love. »
Ouais.
Et du coup, j'étais dégoûté. J'avais trouvé ma super idée originale de faire quelque chose sur George Lucas, et on venait de m'apprendre que quelque chose existait déjà. Du coup, j'ai toujours pas vu le film. J'attends que George soit sorti pour le regarder tranquillement. Bon, a priori, j'ai vu le synopsis. Ça ressemble pas du tout, et c'est totalement, enfin, c'est pas du tout le même état d'esprit. Uh-huh. Donc, je m'inquiète pas. C'est un peu comme Le Sixième Sens et l'autre film avec et les autres qui ont le même principe en fait de fin. Voilà, c'est des choses qui arrivent.
À la grande surprise des fans, George n'est pas disponible via Internet immédiatement. Peux-tu expliquer la situation et qu'est-ce qui a engendré cette décision?
En fait, c'est tout simplement que nous, à la base, on n'est pas du tout dans les circuits du cinéma. Donc, moi, j'ai cette idée de faire George. J'en parle à un ami qui s'appelle Laurent Galmot, qui lui était en train de commencer à avoir des envies de monter une structure de production qui s'appelle Bruit de Production. Donc on monte le projet ensemble, en l'autofinançant, en faisant participer plein de gens autour de nous. Tout le monde s'investit avec une espèce d'enthousiasme comme ça de passionné. Et moi je suis beaucoup plus long que prévu, c'est-à-dire que je mets 3 ans pour faire le film. Et arrivé à la fin, Brut Production commence à exister et tout ça. Et donc, il est plus constructif faire vivre le film d'abord en festival, d'essayer de le vendre à une chaîne télé. C'est pas tant pour histoire de ramasser des sous, parce que c'est, enfin, là-dessus, c'est, on ramassera jamais, enfin, on travaille à perte, mais on travaille uniquement pour le plaisir et la passion. Mm-hmm. Mais par contre, si effectivement des chaînes de télé peuvent nous le montrer, ça nous assure une bien meilleure diffusion, et on peut pas le vendre à une chaîne de télé si le film il circule gratuitement.
Ça, c'est certain.
Donc on essaie de le faire dans l'ordre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de découvrir aussi plein d'aspects qu'on ne connaît pas de la production, de la diffusion. Donc essayer de le vendre à une chaîne télé, en même temps le faire passer à des festivals pour en faire parler. Après, on voudrait sortir un DVD. On est en train, Benoît Pozza, l'acteur qui fait le fan dans le film, qui est cadreur professionnel, est en train de travailler sur un making-of. Et puis, on veut faire un DVD qu'on voudrait essayer de distribuer à la fin d'année. Et puis après, une fois que le film aura circulé, à mon avis, dans un an, on lâchera sur le net.
C'est excellent. Mais,
voilà. En tout cas, c'est une décision du diffuseur. Moi, je le suis. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire le film. Après, ça m'intéresse moins. Je veux que les gens le voient au maximum. Voilà, lui, il me dit, tiens, on va faire comme ça. Moi, ça marche, je suis, je lui fais confiance.
Parfait, ça. Tu connais-tu justement la liste des festivals où Georges sera mis en compétition en 2004?
Non, pas encore.
Non.
Mais par contre, sur le site georgeslefilm.com, on citera ça dès qu'on aura les dates. On va s'amuser à faire une petite bande-annonce aussi qui circulera sur le net pour annoncer que le film est fini et qui pourra faire une espèce de petit cours rigolo comme ça, comme un petit cours en lui-même, quoi, qui va circuler, à mon avis, d'ici un mois et demi.
Parfait, vous nous tiendrez au courant.
Mm-hmm.
Vous avez tourné dans certains lieux publics. Quelle était la réaction des gens face au tournage?
Ben, en fait, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire que on fonce. Par exemple, on a plein de fans qui se passent dans un aéroport. Le fan découvre Georges dans un aéroport. On se renseigne. Les aéroports nous disent, ben oui, pas de problème, c'est 5000 francs la journée. et nous, on ne veut pas. On fait tout en demandant à la personne, Thierry Chasse qui a bossé sur la musique, Marc Bavot qui bosse sur le son, enfin, on a tout un réseau d'amis qui sont investis dans le film, qui sont pas payés et qu'on va payer en fait en fonction des ventes, s'il y a des ventes au niveau de la télévision. Donc on veut pas donner des sous comme ça. Donc je cherche partout et je trouve un tout petit aéroport avec un vol par jour, qui accepte qu'on aille tourner nos plans. Donc on a fait des plans très serrés dans le petit aéroport, et puis après on a été faire des plans larges en caméra volée, en planquant des caméras et tout ça, dans un autre aéroport beaucoup plus grand, et puis on a été faire d'autres plans aussi à Orly, à Paris. Après, sur les réactions des gens, c'est très convivial, donc très vite, les gens, si on a besoin qu'ils participent, ils participent, enfin... On n'a pas de soucis là-dessus, tout se passe très très sereinement.
Mm-hmm. Comme dans un des teasers que vous avez,
ouais.
Ça se passe dans un bar, donc j'imagine que les gens sur place ont été avertis avant que c'était pour un film ou etc.
Non, alors sur le bar, par contre, parce qu'on a quand même besoin de l'autorisation de chaque personne, mm-hmm. C'était un bar qu'on nous avait gracieusement prêté tout un après-midi. Donc c'était que des figurants en fait, que des copains
ah, okay.
Qui sont venus et qu'on fait, qu'on mimait l'euphorie due à l'alcool dans un après-midi.
D'accord. As-tu des anecdotes croustillantes à nous raconter?
Qu'est-ce que je peux avoir comme anecdote croustillante? En fait, il y a des tonnes de lieux de tournage sur le film, ce qui fait qu'à chaque fois c'était des choses particulières. Moi, je me souviens particulièrement de. On a, bon, sans trop vouloir en dire sur le film, on a un moment où George Lucas saute dans le vide d'un Boeing.
D'accord.
Et en fait, bon, voilà, c'est très plaisant à écrire. Et puis après, on se dit, bon, maintenant il va falloir le tourner. J'aime bien essayer d'écrire sans me dire, non, ça on peut pas le faire, c'est pas réaliste, on n'arrivera jamais à le tourner. C'est écrire, et puis après, on se casse la tête pour le faire. Le Boeing, bon, j'ai résolu le problème, c'est-à-dire j'ai tourné des plans dans un vrai Boeing, et puis j'ai construit tout un intérieur, j'ai construit 6 mètres d'intérieur de Boeing en polystyrène avec des poussièges et tout ça.
Mon Dieu.
Après, quand il sautait dans le vide, on avait besoin d'avoir un George Lucas suspendu par des câbles et qui puisse tourner dans tous les sens. Et en fait, moi j'habite à Montpellier, mm-hmm. Sur les plages, il y a des systèmes comme ça pour que les enfants s'amusent, hein, des sortes de trampolines avec
des
harnais. Et on a mis notre George Lucas suspendu à ça, donc c'était très marrant de voir les gens autour qui le regardaient. Et lui qui souffrait, parce que visiblement, moi j'étais juste à la caméra, donc j'avais pas ce problème. Mais je l'ai vu se tordre de douleur, et je suis d'une cruauté absolue quand on tourne, c'est-à-dire je ne pense qu'au plan. Et systématiquement, non, mais continue, vas-y, tu tournes, tourne sur toi, vas-y, fais encore une pirouette. Puis lui, il était là, et j'ai revu plusieurs fois les rushs en taillant pour le montage. Et c'est là que je me rends compte que je suis d'une cruauté vraiment malsaine, parce que se plier de douleur, et puis il continue, il enchaîne quand même, et puis râler une fois que c'est fini. Mais bon, c'était à chaque fois des plans utiles et qu'on a gardé, donc il n'y a pas de souci à l'arrivée.
Parfait. Pourquoi avoir fait le film en noir et blanc?
Alors ça, c'est une astuce technique.
Ah.
Comme je savais qu'on tournait les week-ends, comme je savais que ça allait s'étaler quand même sur pas mal de temps, même si moi je prévoyais plutôt un an et demi, on a mis 3 ans à l'arrivée, ça nous a permis d'être raccord en fait dans toutes les situations. C'est-à-dire que quand on tourne au niveau des arbres par exemple, des ambiances colorées, ça nous simplifiait absolument tout au niveau du donc des raccords montage. Mm-hmm. Et quand on tournait dans un petit aéroport parce qu'on n'avait pas les moyens, puis on raccordait avec aussi le plan d'après, aussitôt un plan qui a été fait à Orly, et le plan d'après c'est un plan qui a été fait à l'aéroport de Montpellier. Là on a, ça me permettait de régler mes lumières à l'arrivée, de régler la colorimétrie pour être absolument raccord. Donc c'est vraiment dû en fait à une limite technique qu'on a pris et qu'on a poussé après comme parti pris esthétique.
Parfait. C'est intéressant. Pensez-vous à envoyer une copie du film au vrai George Lucas?
Bien sûr. Si, ouais, je suis copain avec Patrice Giraud qui s'occupe de Lucasfilm Magazine en France.
Uh-huh.
Et qui a tous les contacts. Et dès que c'est fini, oui, bien sûr, on lui renvoie. C'est trop. Je ne sais pas du tout si j'aurai un retour. Mais, et je ne sais même pas comment il pourrait prendre le film, en fait. Parce que c'est vraiment un film de fan. Mm-hmm. Mais sauf qu'on le tourne en dérision, mais comme on tourne en dérision quelqu'un qu'on adore, quoi. Mm-hmm. Donc effectivement, on le voit sniffer des rails de coke, danser sur une table sous certaines vapeurs d'alcool.
Mm-hmm.
Mais c'est bon enfant, quoi. C'est voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas, on l'a fait. Enfin, on y a passé 3 ans. On passe pas 3 ans à faire quelque chose pour dire du mal de quelqu'un, quoi.
Je crois quand même qu'il va le voir. Il va le voir gentiment, puis. C'est une plaisanterie dans un certain sens. Là.
On vous le souhaite, en tout cas.
J'espère. Sinon, je suis un homme mort.
Tu reçois des appels des avocats de lui.
Non, je sais pas. C'est pareil. C'est vraiment... ça nous amuse, on le fait. Et puis après, on se pose les questions. Mais il n'y a pas... Enfin, bon, c'est vraiment pris comme un hommage et comme un cri d'amour à quelqu'un dont on respecte le travail. Et puis, bon, moi, c'est la personne qui m'a fait plus rêver sur Terre, quoi, professionnellement. Enfin, donc, voilà. Par exemple, j'admire le travail de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. C'est un merveilleux réalisateur. Mais j'arrive pas à vibrer autant que quand... je retrouve pas les émotions que j'ai eues sur L'Empire Contre-Attaque. Je retrouve pas... Donc je vois beaucoup de talent, mais ça me parle pas de la même façon. Et voilà quoi. Après c'est lié à l'enfance, c'est lié à...
Oui, c'est les souvenirs, etc. La nostalgie quoi.
Oui, il y a de la nostalgie. De toute façon, on sait que là, dès qu'on va voir les premiers teasers de l'épisode 3, c'est voilà, on a 12 ans quoi. Dès qu'il y a la musique qui apparaît, dès qu'on retrouve, c'est la chose qui parle le plus aux fans, quoi. Tout d'un coup, c'est notre univers, c'est une partie de soi. Mm-hmm.
Maintenant, quelques trucs plus techniques. La durée du film, est-ce qu'il y a une... Je crois qu'il n'est pas tout à fait fini de monter.
Donc, c'est 23 minutes générique compris et 18 minutes 20 hors générique, je crois.
Parfait. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de coupures à l'édition?
Alors, tout ce qui était prévu dans le scénario... a été tourné et il y a eu très très peu de coupures. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup trop filmé, c'est-à-dire que je voulais tout le temps refaire des prises. Du coup, j'avais à peu près, je crois que j'ai 20 heures de rush. C'est-à-dire trouvais que c'était énorme pour un film de 20 minutes.
En effet.
Donc c'était très long à trier. Donc il y a beaucoup de coupes dans ce sens-là, parce qu'il y avait énormément de prises, et tant que j'étais pas content, on refaisait. Mais il n'y a pas eu beaucoup de coupes. Il y a eu une coupe, c'est... En fait, il y a une scène où il y a des journalistes qui parlent de Star Wars à travers le monde. Mm-hmm. Et on a fait quelque chose que je trouvais assez éclatant. C'est-à-dire que par un réseau d'amis, en fait, on a trouvé des gens dans différentes villes, New York, à Paris, c'était facile, en Australie, au Canada, et différentes mm-hmm. personnes à qui j'envoyais des indications, une cassette DVD, et qu'on filmait des plans, le journaliste devant des monuments spécifiques du pays. Et j'ai une amie qui a tourné au Canada. Et par contre, là, ma séquence était trop longue au montage. Donc j'ai sucré la partie du Canada et j'avais un problème technique en plus de bande DV qui correspond pas à la norme française. Donc déjà que j'étais trop long, j'ai pas insisté sur ce passage-là. Donc on ne verra pas le Canada dans le film, mais par contre ça avait été tourné.
D'accord. Y a-t-il des effets spéciaux? Si oui, quel genre?
Alors j'avais un slogan sur l'affiche, mais ce ne sera pas le slogan qu'on va garder. C'était un film avec au moins... point de suspension, trois effets spéciaux numériques. Pour jouer sur le contraste avec Star Wars, qui est l'espèce de référence. Non, en fait, il y a, à mon avis, il y a 15-20 plans à effets spéciaux qui se voient. C'est-à-dire, il y a des effets spéciaux de retouche qui ne se voient pas. Je pense par exemple à tout ce qui est intérieur de l'avion. Je travaillais avec un petit spécialiste des effets spéciaux qui s'appelle Laurent Pancaccini, qui bosse dans des boîtes de 3D, qui fait des pubs. Et qui a fait beaucoup de retouches. Mon décor faisait 6 mètres, mais parfois dans les plans, on voyait la fin du décor. Et il l'a prolongé visuellement. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et justement parce qu'il l'a bien fait, c'est un grain. C'est-à-dire que c'est du boulot qui ne se voit pas. Mais par contre, s'il ne le faisait pas, ça se voyait énormément qu'on était arrivé en fin de décor. Donc il y a beaucoup de plans comme ça. Et après, de plans assez spectaculaires dans un avion où George Lucas... Non, ça, je peux pas le dire.
D'accord.
Et puis, il y a cette scène où aussi, il saute dans le vide. Donc, voilà, là, on a préféré le truquer que de jeter une vraie personne dans le vide.
Tu mentionnais qu'il allait avoir un DVD en fin d'année. Quel genre d'extra qu'on peut, de bonus qu'on peut s'attendre à y trouver?
Alors, on en parlait il y a 2-3 jours avec le réalisateur donc, du making-of. Mm-hmm. Bon, il va y avoir après 20 minutes, je pense, de making-of. On réfléchit à se faire une version commentée du film. Le truc, c'est qu'on veut pas le faire du tout de façon prétentieuse. Mm-hmm. C'est du tout le but. Je pense que, enfin, moi, ce qui me paraît intéressant dans George, c'est comment, en étant amateur, en ayant un budget ridicule, on peut essayer de faire quelque chose de façon sérieuse. Donc, ce qui me plairait, c'est d'orienter le DVD dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, on fera sans doute aussi une version commentée. Pour dire, tiens, ben là, dans ce plan, en fait, c'est le même personnage qu'on voit là, ou là, c'est telle doublure, ou là, ça a été fait de telle façon. Mm-hmm. Voilà, pour décortiquer vraiment, sous cet angle, vraiment, de la bricole et ce que ça peut rendre à l'image. Donc, on risque de faire ça. On réfléchissait aussi à se faire une version doublée n'importe comment, juste pour le plaisir. Et puis, on mettra les teasers. Et peut-être, mais je ne sais pas si on aura le temps, un explicatif sur les effets spéciaux aussi.
Parfait, ça.
Et puis moi j'en profiterai pour mettre aussi mes courts-métrages précédents.
Ah, tiens, c'est une bonne idée ça. Ensuite, maintenant que George est terminé, voudrais-tu remercier certaines personnes qui ont participé au film?
Ah mais moi je veux tous les remercier. Au départ on était deux, Laurent Mana et Benoît Pozzin, donc qui ont fait les deux acteurs, et bon, ça a été une crème. Voilà, c'était pas évident parce que j'étais lent et perfectionniste, et ils ont suivi et ils ont tout le temps eu foi dans le projet. Et puis après, tous les gens qui se sont greffés, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment, bon, je voulais une musique originale à la Star Wars, mm-hmm. mais je voulais pas reprendre des CD existants, je voulais créer une musique. Et je savais pas du tout qui allait la faire. Et un jour, je reçois un CD de quelqu'un qui s'appelle Thierry Chaz qui m'envoie et qui me dit, tiens, voilà, j'ai fait une musique sur la BD sur laquelle tu travailles, qui est You. Et je travaille sur une collection, une série qui s'appelle You, mm-hmm. aux éditions Soleil. Et il avait fait, bon, comme si c'était un film, la musique originale. Et du coup, en discutant avec lui, parce qu'il me disait qu'il était passionné de cinéma et tout ça, je lui dis, mais attends, je travaille sur un court-métrage, ça ne dit pas de faire la musique, tout ça. Donc il est parti là-dessus, et c'est quelqu'un que je n'ai toujours pas vu. C'est-à-dire qu'on a travaillé par Internet, et par la poste, et par téléphone, mais on ne se connaît pas. Et c'est arrivé avec différentes personnes comme ça, il y a des gens qui ont travaillé sur Georges, voilà, comme ça, que je n'ai jamais vu. Je trouve ça assez, assez fou, en fait.
D'accord.
Donc, il y a lui, il y a Laurent Pancaccini qui a bossé sur les effets spéciaux, il y a aussi dans l'avion, genre je voulais qu'il fasse des pirouettes à un moment. Je place des petits éléments en essayant de pas dire la scène en elle-même. Mm-hmm. Et je vois à la télé champion du monde de karaté qui fait exactement les pirouettes dont j'ai besoin. Donc j'appelle l'émission, je retrouve sa trace, et c'était Christophe Cario. Qui est un spécialiste des arts martiaux. Donc je l'appelle, je lui explique, on se voit, le projet lui plaît, et il est venu passer une journée à faire une doublure de Georges, en fait, avec la perruque, un faux ventre. Il nous a fait les pirouettes comme on espérait, avec bonne humeur. Enfin, il y a Marc Baour qui est la personne qui s'occupe du son, ça fait 6 mois qu'on est là-dessus, et voilà, c'est une espèce de foi. Chacun, on dit tous que, ben voilà, on tente le coup, donc chacun investit, et en espérant ben, qu'à l'arrivée, ça fera parler, que le film fera parler de notre travail à tous. Et puis voilà, ça nous, on pose les bases pour des prochains projets, on apprend à travailler ensemble. Donc ouais, moi je passerai mon temps à remercier tous ces gens-là qui sont une aide indispensable.
Justement, as-tu d'autres projets en tête pour terminer?
Oui. Là, j'ai envie, en fait, on va tourner des petites choses très vite. Genre, vraiment, en une ou deux journées, j'ai envie de décompresser un peu. Et puis, parallèlement, je travaillais avant Georges sur un long métrage, enfin, sur l'écriture d'un scénario. Donc, je vais reprendre un peu tout ça avec du recul, essayer de le peaufiner, l'envoyer à des maisons de production. Et je pense que je vais essayer de m'orienter de plus en plus vers ça, essayer d'écrire pour des longs métrages. Mais bon, Je suis beaucoup pris par mes albums de bande dessinée aussi, donc je ne sais pas comment tout va s'imbriquer, comment ça va se passer après Georges, comment va se passer la sortie, est-ce que les gens vont apprécier le film, est-ce que les gens vont le descendre en flammes, je ne sais pas du tout. Donc voilà, on verra ça.
Parfait. Bon, pour terminer, on demande toujours à nos invités de dire une petite ligne de promotion pour Star Wars en direct, donc si ça ne te dérange pas... Tu pourrais dire bonjour, je suis Jim, le réalisateur de Georges le film, et vous êtes à l'écoute de Star Wars en direct.
Bonjour, je suis Georges, non, stop, je la refais.
Pas de problème, tu peux la reprendre autant de fois que tu veux.
Bonjour, je suis Jim, le réalisateur de Georges, et vous êtes sur Star Wars en direct.
C'est parfait.
C'était ça?
Ouais.
C'était tout.
Donc on va te remercier de notre part et au nom des fans, des auditeurs qui nous écoutent présentement. Reste en ligne. Et puis, on va revenir après la pause musicale à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Hi, this is Michael Sheard, Admiral Ozzel from The Empire Strikes Back, and you are listening to Star Wars on Direct.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Et je laisse la parole à Sébastien pour la chronique événement.
Je peux parler?
Oui.
Pour vrai? J'ai été tranquille dans l'émission aujourd'hui quand même. Donc, les 24 et 25 avril prochains, pour le simple coût de $5, vous allez pouvoir assister au Salon national des collectionneurs à Saint-Hyacinthe, au pavillon des Pionniers, 2670 Avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe, Québec. Et si vous êtes de la région de Paris, on vous invite à aller voir une petite conférence pour les plus scientifiques d'entre vous à l'ENST de Paris, l'École nationale supérieure des télécommunications. Elle va avoir lieu le 26 avril de 17h à 18h30. Ça va parler de la saga cinématographique Star Wars qui a eu un succès considérable. Comme la plupart des œuvres de science-fiction, elle met en scène des technologies futuristes qui, à l'évidence, dépassent largement les nôtres. Pourtant, certaines réalisations ont un air de déjà-vu. Est-il possible de faire la part de la science et de la fiction, du rêve et de la réalité? Ils vont mener l'enquête en utilisant des outils de la physique pour décrypter certaines scènes du film. Quelle pourrait être l'origine de la force? Comment construire un sabre laser? Quelles sont les caractéristiques de l'étoile de la mort? où se situe la planète Tatooine? Voici quelques-unes des questions que nous allons tenter d'éclaircir ensemble. Que la force soit avec vous pour les inscriptions. Il vous invite aussi à passer sur, sur leur site. Donc, faites une recherche pour le site de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Et voilà. C'est
on va en reparler de toute façon, on parce que c'est encore loin.
Et puis, on va, avec un peu de chance, on va réussir à avoir quelqu'un sur place, un correspondant qui pourra nous...
Faire un rapport,
nous dire ce qui s'est déroulé. Où est la princesse, où est la planète Tatooine?
Exactement. En plus de ça, on aurait pu parler du 5e anniversaire de Sept-Clans-Montréal et Paris, mais c'est des anciennes nouvelles. Donc, allez voir les sur Sept-Clans.net, sur Sept-Clans 4. Sur Sept-Clans 4, la portion rencontres et événements, vous pourrez lire les résumés, voir quelques photos à cet endroit-là.
Exactement.
Donc, on rappelle que ce soir, il y a l'émission anglaise sur le même sujet à 19h, heure du Québec. Donc, 2h du matin, 1h puis 1h du matin, si vous êtes courageux. Et puis, la prochaine émission, sujet inconnu. On n'a pas décidé du sujet encore. Vous pouvez toujours nous faire nos suggestions à studio@commercialsw.com. La prochaine émission aura lieu le 28 mars 2004. Je vous rappelle qu'on approche de la 50e émission. Et donc, on va faire une petite fête pour ça. On va essayer de sortir les meilleurs moments de nos archives. On va essayer d'avoir des commentaires de fans au téléphone pour donner leur appréciation des 50 premières émissions, etc. Peut-être reparler avec d'anciennes personnes qu'on a interviewées, etc. On va voir qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cela. Ça devrait être fin avril si la séquence se continue comme ça, la 50e émission. On a déjà 50 émissions, mais 50 émissions complètes. Je voudrais dire, parce qu'on a fait des éditions spéciales, etc.
On a fait des versions anglophones.
Exactement.
Donc
si on compte... juste les francophones, on a 4 éditions spéciales et 47 avec cette émission-ci, donc on est théoriquement à la 51e, mais le show officiel 50e, ça devrait être fin avril. En plus de ça, nous allons remercier nos commanditaires, Sept-Clans.net, Legend Action Figures et Simple-Net.ca, ceux qui nous hébergent gracieusement. Très bon service en passant. Donc,
t'es satisfait?
Oui.
C'est très bien.
Exactement. Nos partenaires aussi, on va remercier Star Wars Galaxies France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe, la version light. Oui, ils sont revenus en ligne, donc vous pouvez aller les revoir. Une version abrégée en attendant leur nouvelle version. R2-D2 Menace, Roger One, Camille Webb, Anakin Webb, Anakin World, Star Wars Connection, Bolton Online, qui sont revenus en ligne récemment. La ville de joueurs de Star Wars Galaxies, Mos Umbra Vegas, Star Wars Holonet et Star Wars Federation.net. Tous les liens sont disponibles sur www.swendirect.com. Si vous avez des commentaires ou suggestions, écrivez-nous à l'adresse studio@commercialsw.com. Tout commentaire, suggestion d'émission, etc., etc. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, parlez-en autour de vous. Le bouche-à-oreille est notre meilleure publicité possible que l'on peut avoir de votre part. Donc, merci d'avoir écouté Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. À la prochaine.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveurs de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct.
Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Localiser la base rebelle, capitaine.
Oui, Seigneur Vador. Nous avons repéré la fréquence de leur émission pirate, Star Wars en direct.
D'où émettent-ils?
Ils émettent depuis Hoth.
Changez de cap. Nous partons éliminer ces rebelles. Personne ne se mettra sans trompe.
Oui, mais les rebelles sont menés par un certain lunatique.
La force est puissante en lui.
Oui, alors, on l'abandonne?
Oui. C'est trop risqué. Ne prenons aucun risque.
Sir, if you'll not be meeting me, I'll close down for a while.